14h01, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Faible neige à la limite du fondant. Et on va laisser les préliminaires de côté parce que c'est terminé pour Éric Kerr, Véro.
Semble-t-il qu'effectivement c'est le cas. C'est Max Larouche qui vient juste de nous envoyer l'information de dernière heure. Éric Kerr qui démissionne comme ministre de la cybersécurité et du numérique.
Est-ce que il reste au sein de la CAQ?
Il y a plusieurs questions à se poser à ce moment-ci. Il a remis sa démission au premier ministre. Il en serait venu à la conclusion qu'il était une distraction.
Ah oui? c'est doux comme mot,
c'est, je trouve. C'est le fruit d'une longue réflexion et effectivement, le mot est peut-être un peu doux.
Puis à l'heure où on se parle, regarde, tu vois, il y a toute la série de tweets là, que Éric Kerr a envoyé.
OK, peux-tu nous... Oui. Ben regarde, on va prendre le temps des lire. 14h02, c'est Gravel dans le retour. Véro, bonjour.
Bonjour.
Audrey, bonjour.
Salut.
Ça vient juste d'être retransmis alors que François Legault est en point de presse.
Exact.
Éric Kerr démissionne. Écoutons les détails.
La situation totalement inacceptable qui s'est produite dans le cadre du projet de transformation numérique à la SAC, telle que décrite par la vérificatrice générale du Québec, a provoqué une controverse à propos de mon rôle dans toute cette histoire. Même si j'ai assumé mes responsabilités de ministre dans cette affaire et que je n'ai rien à me reprocher, hormis de ne pas avoir été assez méfiant, j'en suis venu à la conclusion que c'était devenu une distraction qui nuisait à mon gouvernement et à mon premier ministre. Je lui ai donc offert ma démission comme ministre de la cybersécurité et du numérique. Je tiens à remercier mon premier ministre pour la confiance qu'il m'a accordée. Fait que de ce qu'on peut comprendre, il semble demeurer au sein de la CAQ, il semble demeurer député aussi.
Mais il n'a rien à se reprocher.
Ouais, non. C'est...
c'est je suis désolée que tu aies de la peine.
C'est le bout qui passe mal.
Ouais. Ouais.
Tu sais, si tu n'as rien à te reprocher, ben reste en poste.
Ouais, ouais.
Je m'excuse, Denis, que mon insulte t'ait fait de la peine.
Je suis désolée que ça t'ait fait de la peine que je t'ai trompé.
Mettons qu'il n'y a rien à se reprocher puis que c'est le premier ministre qui a demandé de partir. Ça s'écrit, ça aussi. Moi, c'était ces messages-là qui ne sont pas écrits.
C'est pour l'image,
par la personne.
C'est pour le game d'image.
Ouais, c'est, ça m'a tout le temps levé le cœur.
La théorie qu'on a à la station, en fait, moi, je pense qu'il y a une négociation pour qu'on en arrive à ça.
Tu veux dire?
Ce matin, les gars parlaient d'Éric Kerr, puis pourquoi il est encore en poste, puis comment ça se fait que François Legault le garde là, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une tempête au cœur de laquelle se retrouve Éric Kerr, mais chaque fois, il est téflon, il y a rien qui colle à la peau. Puis ce que les gars ont commencé à jaser ce matin, puis je suis assez d'accord, c'est est-ce que Éric Kerr a menacé d'entraîner avec lui d'autres membres du gouvernement qui étaient au courant?
Je pense pas qu'il soit capable de ça.
Tu penses?
Je pense qu'Éric Kerr est beaucoup de choses, mais
pas
je
un leader.
Pense pas qu'il soit un leader ou même quelqu'un de malicieux. Là.
Je pense pas que ce soit de la malice. Je pense qu'il a peut-être négocié l'image que laisserait son départ de ce poste-là. Faut pas oublier qu'Éric Kerr, alors qu'il était dans l'opposition, se battait pour de la transparence dans tout ce qui était numérique au gouvernement en décriant que les partis au pouvoir dépensaient sans regarder, sans compter, n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Puis là, il se retrouve exactement dans la position qu'il décriait auparavant.
Fait que... Le rentemplant du gouvernement qui aurait dit, et je cite, « On m'a donné ma démission. » C'est... moi, je pense qu'il y a une réelle notion d'amitié entre François Legault et Éric Kerr. Ça a déjà été sa façon de défendre ses ministres. C'est mon ami, puis il travaille fort, ce qui est complètement ridicule en soi. Je pense pas qu'Éric Kerr puisse menacer qui que ce soit de quoi que ce soit. Je pense qu'il en est juste pas capable. Et je pense pas qu'il avait l'intention de démissionner. Je pense vraiment que ça vient de plus haut.
Ah,
on
oui.
lui a demandé de sauter en avant du train puis de prendre une balle pour son ami François Legault. Pour preuve, tu sais, il va rester au sein de la CAQ, il reste député, alors que les chiffres indiquent présentement que si jamais sa circonscription redeviendrait disponible au vote, il se ferait botter les foufounettes comme à peu près tout le monde du gouvernement de la CAQ présentement sur les sites de projection. Fait que il n'y a rien de surprenant. Ce qui m'aurait surpris aujourd'hui, là, c'est qu'Éric Kerr finisse la journée.
Effectivement. Puis ça devait être annoncé aujourd'hui pour pouvoir faire du temps d'antenne média avant la fin de semaine. demain, ça aurait passé pour une tentative d'éclipse médiatique, alors que là, c'est lui le paratonnerre. C'est lui qui est en train de prendre la foudre pour le gouvernement puis pour la mauvaise gestion du projet Saclic. Actuellement, on va en reparler dans les nouvelles, mais tu as François Bonnardel, l'ancien ministre des Transports, qui est maintenant à la sécurité publique, qui, comme par hasard, est en train d'agir dans le centre de détention de Québec, alors que ça fait des mois qu'on sait que ça va pas bien. Quel étrange timing!
Pour bien paraître.
Pour bien paraître, exactement. Tu as une Geneviève Guilbeault qui essaie de montrer qu'elle a été une pieuvre du moment où elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas bien, à essayer de boucher tous les trous du navire Saclic. Disons qu'il y en a plusieurs qui sont en damage control.
Je veux vous lire l'histoire qui a fait couler Éric Kerr, puis après ça, on va se poser une question. Puis la réponse nous appartient, vous appartient. On n'arrivera peut-être pas tous à la même réponse, et on connaîtra malheureusement jamais la vraie réponse. 9 jours après avoir été officiellement informé des dépassements de coûts associés au projet Saclic, le ministre Éric Kerr a signé un arrêt ministériel qui a permis à la SAC de contourner les règles du Conseil du Trésor et de cacher à la population une facture de 222 millions de dollars supplémentaires. Je m'arrête ici. Pensez-vous vraiment qu'Éric Kerr, de son propre chef, sans consulter le premier ministre, aurait signé un décret pour cacher quoi que ce soit? Pensez-vous qu'Éric Kerr a l'autorité nécessaire, la confiance nécessaire? On a volé la prison. Pensez-vous vraiment que ce gars-là n'a pas demandé la permission avant de signer un décret pour cacher des centaines et des centaines de millions de dollars de dépensement? Je l'ai pas la réponse. Je la suppose beaucoup.
Ça s'est pas fait tout seul.
Je suis convaincu que ça s'est rendu au premier ministre et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est en mode damage control. Puis oui, on essaye d'attirer l'attention un peu partout. C'est pas pour rien qu'hier, il y avait des consultations fantoches sur le troisième lien.
Exact.
C'est pas pour rien que ça fait un an que tout est croche dans les prisons. Puis là, soudainement, aujourd'hui, on décide d'agir.
Mm-hmm.
On aurait pu, avant Noël...
Oui, on aurait pu bien avant ça.
C'est des nouvelles qui circulent depuis un certain temps. Puis c'est triste de voir qu'un parti qui, à une certaine époque, avait aspiré à faire le ménage...
À être le parti différent.
À être un gouvernement différent, ben c'est devenu un gouvernement de fonctionnaires, de réflexes de vieille politique sur à peu près tout. On est dans marde. Qu'est-ce qu'on fait? On prend rentre-en-plan, on le garoche en avant du train, puis là, on essaye de faire 2-3 affaires en même temps. On fait du bruit, on fait ce que la perdrix fait quand vous la pognez dans le bois. Qu'est-ce qu'elle fait, la perdrix?
Elle fait tout pour attirer l'attention loin des petits.
Ouais. Elle bouge en avant de vous autres, elle danse, elle fait tout et tant, elle fait du bruit. Pendant ce temps-là, les petits passent en arrière et tu t'en rends pas compte. Ben, le gouvernement fait la perdrix aujourd'hui. Ils font beaucoup de bruit, ils envoient rentre-en-plan en dessous du train, puis on essaye de faire semblant que tout est beau. La semaine prochaine sera une autre semaine.
Jusqu'au prochain scandale qui va sortir.
Je repose la question une dernière fois, je veux pas être trop fatigant. Pensez-vous vraiment qu'Éric Kerr a pris l'initiative lui-même de cacher 222 millions de dollars de dépenses supplémentaires pour le projet Saclic? Poser la question, c'est y répondre.
L'autre théorie est encore plus inquiétante. Mettons qu'il avait des responsabilités pour vrai, puis qu'il n'a juste pas constaté l'ampleur de la chose. Il y a des gens dessus lui qui n'ont pas fait leur job non plus.
D'une façon ou d'une autre, mais vous ne me ferez jamais croire qu'Éric Kerr avait l'initiative ou le guts.
Faut pas qu'il y ait eu ça.
Puis, de toute façon, depuis le début de la semaine, la version de l'histoire a déjà changé plusieurs fois. La première version de l'histoire, c'est que personne au gouvernement était au courant de ça. Ça, c'était au début de la semaine. Je veux dire, ça fait même pas 4 jours.
Mm-hmm.
La semaine n'est pas finie. Peut-être bien qu'on va avoir une autre version dans pas longtemps. Les journalistes creusent, il y a ça d'encourageant parce qu'il en sort du stock. Mais autant... Je suis pas un admirateur d'Éric Kerr et de sa carrière politique au sein du gouvernement. Je pense que c'est un gars qui n'a peut-être pas le jugement nécessaire pour être à la tête de ministère, à la tête de grands projets, à la tête
d'une réforme.
D'une réforme, oui. Mais je pense que le premier ministre le savait aussi. Puis on en parlait un petit peu dans le pit stop. Il y a des gens qui aiment s'entourer de gens meilleurs qu'eux.
Moi, ouais, si j'étais, pour se tirer vers le haut.
Moi, si j'étais premier ministre... Ma mission principale, ce serait de m'assurer que tout le monde autour de moi est meilleur que moi. Parce que quand va venir le temps de prendre les décisions, ben je vais pouvoir me tourner vers mon ministre de l'Éducation, puis il va être meilleur que moi, puis il va me donner les meilleurs conseils. Si je m'en vais sur une mauvaise track, il y a quelqu'un de meilleur que moi autour de moi qui va être en mesure de me le dire. Tout fonctionne de même normalement, mais il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des gens que c'est l'inverse. Souvent, c'est de l'insécurité quand tu es à la tête de quelque chose.
Utiliser le principe de faire valoir, ben oui.
Ben, tu vas t'entourer de gens moins forts que toi pour être sûr qu'il n'y ait pas de contestation puis que tu puisses toujours faire à peu près ce que tu veux. Mon Dieu Seigneur, dans les deux cas, je pourrais vous nommer des équipes de radio puis on aurait beaucoup de plaisir à potiner, mais restons dans la politique. Je pense que le premier ministre François Legault a pas beaucoup de têtes fortes autour de lui, puis on le dit souvent dans la région de Québec, on a l'impression qu'on a quelques pantins qui font oui-oui de la tête, des bobbleheads de conférences de presse, là. Tu donnes un petit coup au début de la conférence, puis la tête achète tout seul pendant une demi-heure.
Littéralement.
Vous les connaissez, on les connaît. C'est pas des gens qui prennent sur eux-mêmes de cacher des dépassements de dépenses dans les projets les plus importants du gouvernement. C'est pas vrai. Si j'avais un vieux 2 à mettre, Geneviève Guilbeault le savait, puis François Legault le savait.
D'ailleurs,
arrêtez ça, là.
Il y a un tas de médias qui creusent, qui ont les contacts, puis tout le kit. Il y a des députés des oppositions qui travaillent excessivement fort depuis le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Faut pas que ça s'arrête avec aujourd'hui.
Bien, c'est ce que le gouvernement essaye de faire sur deux fronts. On se débarrasse d'Éric Kerr, qui est rendu un poids mort, puis on essaye d'attirer l'attention ailleurs. Tu sais, on a fait la nomenclature tantôt, là, d'où est-ce qu'on essaye de nous amener. Bon, dans la région de Québec, on lui ramènera pas les Kings, là, les sénateurs viennent gratis. Qu'est-ce qu'ils font d'autre dans la région de Québec? Ah ouais, on va lui parler du troisième lien, d'habitude, ça lui ferme la gueule.
On va leur montrer des corridors. Puis on va leur dire que c'est un pont, que ça sera pas un tunnel. On va leur donner un peu plus de concret.
Non.
Ça va, ils vont jouer avec le os, là.
Qu'est-ce qu'on leur dit, monsieur le premier ministre? Dites-le n'importe quoi. Dès que ça parle du troisième lien, ils se ferment la boîte dans la région de Québec. C'est ça qu'ils ont fait hier.
C'est carrément
puis,
ça.
Puis, tu sais, j'ai fait de la peine à mon ami Marceau tantôt parce qu'il me parlait des différents corridors puis de ceux qui avaient le plus d'allure. Puis je disais, excuse-moi, man, j'y crois juste pas. J'y crois juste pas. C'est des conversations qu'on avait il y a 10 ans. C'est un écran de fumée. C'est de la poudre aux yeux. Ces gens-là n'y croient pas non plus. Ils feront pas le troisième lien. Ils s'en servent quand ils ont besoin qu'on parle de d'autres choses.
Mm-hmm.
Ils sont déjà servis des Nordiques pour ça, mais ça marche moins, là.
Bernard Drinville avait essayé cette semaine en disant qu'il ferait une adresse à la Nation, mais il n'a pas eu le fame qu'il pensait avoir. Fait que...
Je pense que...
L'intimidation, c'est non.
Je pense que Bernard Drinville est le seul électron libre de ce gouvernement-là. Et c'est pas nécessairement parce qu'il a les compétences. Je pense que c'est juste quelqu'un qu'on laisse aller. C'est moins de gestion.
Tu sais, le plus jeune dans la famille que tu sais qui peut pas faire beaucoup de dommages, là. On dirait que ça te dérange moins qu'il gosse, qu'il parte, qu'il traîne, qu'il fouille.
Ben, restons dans le Lucky Luke. Si Éric Kerr était le rentemplant, ben Bernard Drinville, c'est le Avrel.
Ouch!
On pourrait dire que c'est tous des Avrels aussi. Mais voyons voir comment tout ça va être géré, comment tout ça va être interprété aussi. Puis voyons voir si la version ne change pas encore, parce qu'elle a énormément changé depuis le début de la semaine. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il est 2h15, Éric Kerr a démissionné de son poste de ministre.
Exactement. Donc, il l'a annoncé par la voix des médias sociaux et simultanément, François Legault, qui était du côté de la TUC en Haute-Mauricie, l'a annoncé aussi. Donc, il ne sera plus ministre de la cybersécurité et du numérique. Par contre, à l'heure où on se parle, il semble toujours rester député caquiste de la Pelletrie. Il n'y a pas d'informations qui vont à l'inverse de ça. Puis on parlait de brasser certains hochets pour essayer d'attirer l'attention ailleurs. Sur le texto, quelqu'un nous dit « Le changement d'heure s'en vient. Jolin Barrette va nous venir avec sa pétition.
» Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est un beau sujet. C'est un beau débat. On gaspille de la salive. C'est vrai. Toutes ces affaires-là vont revenir. Puis... dans le cas d'Éric Kerr, il dit qu'il ne regrette rien, il dit qu'il ne se reproche rien, mais il est une distraction pour le gouvernement, puis il démissionne de son poste de ministre. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas là-dedans.
Il dit juste qu'il n'a pas été assez méfiant. Voyons!
Si tu n'as rien à te reprocher, garde ta job, à moins qu'on te sacque dehors. Si on te sacque dehors, on te sacque dehors. Tu ne restes pas député, tu ne restes pas un membre de la CAQ. Si tu trouves que tu es une distraction pour ton gouvernement, tu ne fais pas juste lâcher ton ministère, tu abandonnes aussi le parti, tu deviens indépendant. On a planché une firme de communication et de faiseux. On planché aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on lance comme message pour être le plus flou possible et qu'il y ait le moins de conséquences possible. Puis ça donnait ça.
C'est spectaculaire.
Non, moi, il n'est plus là.
Comme le disait si bien Rush, plus ça change, plus c'est la même chose. Ben, il est plus là. Il est encore là.
Oui, mais au moins, il n'est plus son ministère.
Il représente encore du monde.
Ça, je suis d'accord. Pis, on n'en a un pas, je trouve.
Je serais bien surpris que toutes les autres réussissent tous et toutes à s'essuyer les pieds sur Éric Kerr. Bref, 14h16, c'est Gravel dans le retour. On est parti un peu vite. Vous dire qu'il y a de la neige qui tombe à la limite de la neige fondante, présentement sur Québec, à moins 1 degré. Et il y a des choses à signaler dans la circulation, Audrey?
Oui, bien, c'est sur la 20 Est, à la hauteur du kilomètre 321, dans le coin de Chemin des Îles. Là, la voie de gauche qui est bloquée, c'est une sortie de route. Les services d'urgence étaient sur place lors de la dernière mise à jour.
Vous dire que c'est quelques centimètres de neige qui risquent de s'accumuler dans les prochaines heures. Si on y va dans le détail, entre 2 et 4 centimètres cet après-midi et entre 2 et 4 cm pour ce soir et cette nuit. Ça reste doux, moins 5 degrés le minimum pour cette nuit, mais attention, ça continue de baisser demain en matinée pour atteindre moins 8. On se stabilise là pour terminer le mois de février avec un ciel variable. Samedi 1er mars, on prévoit toujours un 10 cm de neige avec un maximum de moins 8. Et dimanche, ben, on va ressortir le slogan de la Coors Light. En veux-tu une froide? Moins 13 degrés le maximum et moins 24 le minimum. Éric Kerr a démissionné de son poste de ministre. Il reste député. C'est une nouvelle qui est tombée dans les dernières minutes. On aura évidemment les réactions, puis on va être en mesure de décortiquer un petit peu plus d'ici 18 heures. On a plein de choses à vous jaser, évidemment. Et vous le savez, les meilleures nouveautés de la business, vous les entendez à Boulevard. Les bands que vous aimez, The Offspring, est encore capable d'en sortir une coupe de son sac. Du chapeau. Et la plus récente, je pense que tout le monde l'aime pas mal. OK, but this is the last time. BLVD.fm et l'application Boulevard pour entendre les nouveautés puis nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes chez vous ici, fait que, idéalement, mettez ça à votre goût. This just works. Une des plus belles et une de celles qui vieillit le mieux de tout le répertoire des cow-boys fringants, l'Amérique pleure. Le départ d'Éric Kerr, peut-être? Non, peut-être pas non plus. Boulevard 102.1, Gravel dans le retour. On va reparler évidemment de la nouvelle de dernière heure. Éric Kerr qui démissionne de son poste de ministre. On va faire le tour des principales nouvelles, des réactions tantôt. Peut-être s'encourager? Parce que la neige décourage, il y a peut-être des gens qui trouvent la semaine longue aussi.
Si ça vous stressait, la neige, tout ça, là, vous rappelez que la grève des cols bleus est suspendue à partir de 16h aujourd'hui.
Oui, ça, c'est l'autre grosse nouvelle de la journée.
Puis je vous en parle parce que si vous faisiez partie des gens dans les arrondissements de Beauport et Lac-Saint-Charles pour qui les collectes étaient suspendues, le calendrier a été remis là, là. Fait que prenez le temps de regarder si des fois votre journée était demain. Là.
À partir de 16h, tout le monde gagne à l'auto-vidange.
Exact!
Oui, c'est reparti! Les cols bleus, ou à tout le moins le syndicat des cols bleus, qui clairement a voulu sauver la face après une semaine à avoir de la pression des cols bleus même qui n'étaient pas contents de la situation. Puis je pense que dans ce dossier-là, le maire Marchand a bien manœuvré. On s'en reparlera tantôt. Ouais. On est aux portes de la fin de semaine, puis vous le savez, la meilleure musique de la business, vous allez l'entendre tout au long du week-end à Boulevard 102.1 avec le Boulevard du Rock. Hello va être avec vous autres en fin de semaine. On a également Matt Marcotte et Reg qui se jasent en fin de journée les samedis et dimanches avec le volume à planche. Mais nos matins, vous le savez, c'est Rock and Chill. À partir de 7h avec Audrey Pinchot. On entre en mode rock and chill. Et je ne sais pas si c'est notre version de ce qu'on appelait à l'époque les MTV Unplugged ou Paramount Plus a décidé qu'il devenait rock and chill. Mais il y a une nouvelle aujourd'hui qui a attiré mon attention parce que, bon, c'est ça qu'on vous propose le matin, tu sais, des versions acoustiques et ainsi de suite. Puis quand est-ce que l'acoustique est venue à mode? C'est quand MTV a lancé les concerts Unplugged. Ouais. Puis évidemment, il y en a qui sont devenus légendaires, celui de Nirvana, entre autres. Puis Paramount Plus a annoncé un peu plus tôt cette semaine qu'il rendait disponible des dizaines et des dizaines d'épisodes de la série MTV Unplugged. Et il y a des épisodes là-dedans qui n'ont pas été disponibles depuis plus d'une vingtaine d'années.
Ça, je suis très, très, très curieuse parce que les MTV Unplugged se sont comme poursuivis dans les années récentes. Mais tu sais, mine de rien, t'es un artiste qui veut faire du unplug, t'avais pas besoin du titre MTV Unplug, mais de les avoir rassemblés, mais surtout de voir les vieux de la vieille que j'ai pas revus depuis l'époque de Musique Plus, ça me tente, là.
Paramount Plus qui rajoute plus d'une centaine d'épisodes de MTV Unplug, mais aussi de VH1 Storytellers. Qui était un peu la même chose, sauf quand les tunes, l'artiste prend le temps de raconter des anecdotes, de raconter des l'inspiration des chansons et ainsi de suite. Puis le country est à la mode, CMT Crossroads, qui était aussi le même genre d'émission, mais à saveur un peu plus country. Donc c'est énormément de musique qui devient d'un coup disponible sur une option de streaming qui n'est pas la plus populaire au Québec. Mais si vous êtes des tripeux de musique, là, ça commence à être un pensez-y bien. Parmi les artistes qui sont en vedette dans les séries Unplugged, il y a Neil Young, il y a Lenny Kravitz, il y a Elton John, il y a Pearl Jam, il y a les Stone Temple Pilots, il y a Nirvana, évidemment. J'ai pas nommé Eric Clapton, mais Eric Clapton fait partie de la liste.
Puis il faisait partie de ceux qui avaient été incontournables. T'avais Alice in Chains aussi, je pense, qui avait beaucoup retenu l'attention à l'époque.
Oui. Fait que Paramount Plus entre en mode rock and chill. Tu nous parlais d'Alice in Chains, Véro. Le vieux de la veille, le vieux de la veille, le vieux de la vieille.
Ah, de la veille aussi, là.
Grand-papa grunge. Neil Young.
J'ai l'impression qu'il y a des bons ajouts qu'on pourrait faire dans le rock and chill.
Je pense que oui, hein. On va avoir besoin de. On va avoir moyen de s'amuser. Ah, tiens, justement, dans la série Unplugged, d'un gars qui vient nous voir cet été. Rod Stewart. Kiss, Sheryl Crow, R.E.M., Shakira, Korn. Et également disponible pour la première fois depuis longtemps, un concert MTV Unplugged qui est devenu célèbre pour les mauvaises raisons, Oasis. Oasis qui avait fait un show Unplugged, puis la chicane avait pogné juste avant. Ce qui fait en sorte que, dans le show MTV Unplugged, le chanteur Liam Gallagher n'est pas là. Parce qu'il est parti sa brosse, bougonné.
Ouais.
Et Noel Gallagher, son frère, a décidé de faire, on va faire le show pareil, puis c'est moi qui vais chanter les tunes. Et à un moment donné, dans le milieu du show, puis tout ça est filmé, Noel Gallagher regarde au ciel, puis il se rend compte que son frère est dans une loge chaud comme la Pologne.
À regarder le show de son band.
Puis qui est en train d'écouter le show.
Oh mon Dieu!
T'as-tu déjà vu ces images-là?
Non, non, j'ai jamais vu ces images-là.
La face de Noël.
Oh là 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 là!
Je peux pas croire qu'ils reviennent ensemble.
Un moment de malaise parce que la foule se rend compte que Liam Gallagher est là. Noel Gallagher l'adresse. Puis sa façon de clore le débat, c'est de dire on va enchaîner avec une autre toune que j'ai écrite.
Parce que c'est lui qui écrit l'essentiel des tounes.
Et le malaise.
Terrible. J'aime beaucoup Liam Gallagher, mais c'est Noël qui a la plus belle voix.
Tu dis, toi? Ah,
Dans la série VH1 Storytellers, les épisodes qui vont être disponibles sur Paramount Plus, entre autres, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, les Foo Fighters, Green Day, beaucoup, beaucoup de grosse musique qui devient disponible pour la première fois depuis très longtemps sur les services de streaming. Je trouvais que ça valait la peine d'être partagé et on va peut-être tendre l'oreille également pour faire des ajouts à l'émission d'Audrey la fin de semaine, le Rock and Chill, samedi et dimanche à compter de 7 heures.
Ça ferait vraiment mon bonheur. Pense tu vois, je suis en train de regarder ces 7 piastres par mois. D'après moi, je vais passer un petit mois sur Paramount Plus.
Bon, ben on devient-tu coloc?
On pourrait devenir coloc.
Hey, on s'arrête, on revient, c'est Gravel dans le retour. Beaucoup de nouvelles. On va prendre le temps de faire le point dans les prochains instants.
Gravel.
On ne fixe même pas le mot pour décrire.
Le retour de Boulevard 102.
Je ne vais même pas expliquer ma réaction. J'étais la fille la plus heureuse sur Terre.
Avec Denis, Véro et Audrey. Gravel.
Boulevard 102.1.
Mine de rien, pour ceux qui s'apprêtent à prendre la route, la visibilité vient d'en prendre un solide coup. Petite neige qui tombe sur Québec présentement, mais la poudrerie fait en sorte qu'on voit pas mal moins qu'il y a une heure à peine. Je vous rappelle que pour nous rejoindre, s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, par texto, le 418-971-1021, par téléphone, le 780-1021, dans le 418, on est partout sur vos réseaux sociaux. Facebook, Instagram et ainsi de suite. Le Twitch est ouvert, les caméras sont en studio. TWITCH.TV, la chaîne BLVD, barre en dessous FM. On reste avec vous autres pendant les séquences musicales avec la communauté du Twitch. Beaucoup de grosses nouvelles, Véro. La grève est suspendue à Québec et Éric Kerr n'est plus ministre.
Oui, puis on va commencer par le plus récent, effectivement. Éric Kerr qui n'est plus ministre de la cybersécurité et du numérique. Ça a d'abord été annoncé par François Legault qui était du côté de la TUC en Haute-Mauricie pour faire des annonces en lien avec tout ce qui est l'industrie forestière. C'est lui qui l'a d'abord confirmé, puis par la suite, il y a eu un envoi sur les médias sociaux de la part d'Éric Kerr disant, entre autres, que même s'il a assumé ses responsabilités de ministre dans cette affaire-là, qu'il n'a rien à se reprocher, hormis ne pas avoir été assez méfiant. Il en est venu à la conclusion que c'était devenu une distraction qui nuisait à son gouvernement et à son premier ministre, fait qu'il a offert sa démission comme ministre de la cybersécurité et du numérique. On pouvait se douter que ça arrivait. On avait eu un indice un petit peu plus tôt aujourd'hui quand on a clairer l'agenda de Éric Kerr. On souhaite toujours une espèce de d'envoi en nous disant ben tel ministre va être à telle place au courant des prochaines 24 heures. Puis là, soudainement, il n'y avait plus rien à l'horaire d'Éric Kerr. OK, il s'est présenté ce matin avec un masque puis avec une grippe. Peut-être qu'on aurait pu dire c'est à cause de ça. Mais clairement, ça s'enlignait pour plus tard dans la journée, pour le moment où François Legault allait s'adresser aux médias.
Éric Kerr s'est dit « Je vais me mettre un masque. Personne ne va me reconnaître. » Et malheureusement, ça n'a pas marché. Il fallait laisser le temps aussi à l'autre de composer le message avec son équipe de feuseux. Tiens, ça, c'est ce que tu vas mettre sur tes réseaux sociaux. Parce que je suppose qu'il s'est fait démissionner plus que d'autres choses.
Pour l'instant, il semble demeurer député de la pelleterie. On verra aussi qu'est-ce qui va se passer dans les prochains sondages de la CAQ. N'oubliez pas qu'il y a une partielle qui s'en vient du côté de Terrebonne. J'imagine que le gouvernement va essayer de garder Éric Kerr en poste pour ne pas avoir une autre partielle, alors que les élections générales ne vont pas avant l'année prochaine. Mm-hmm. Parce que j'ai le feeling que pas à CAQ qui rentrerait dans la pelleterie si demain matin il devait y avoir des élections.
T'as vu l'effet dévastateur sur la CAQ de la défaite dans Jean Talon?
Ben oui.
Ils veulent pas revivre ça.
Non.
Puis va voir les projections, là. c'est tout un coup de pied aux foufounettes là, que la CAQ se ferait donner dans la circonscription d'Éric Kerr.
C'est le Parti conservateur du Québec qui avait essayé de faire une espèce de coup d'éclat en allant cogner aux portes du côté de la pelleterie là, pour demander à ce qu'Éric Kerr soit tassé. Puis ça, c'était dans une autre histoire que celle dont on parle depuis maintenant une semaine. Là, on se doute qu'il y aura un mini-remaniement qui va se retrouver avec les responsabilités. Puis c'est des responsabilités qui sont importantes parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en pleine transformation transformation numérique à l'intérieur du gouvernement. On a parlé des fax dans le système de santé. Là, fait que c'est plusieurs projets qui sont en cours puis qui semblent, entre autres, accompagnés par ce ministère-là. Les réactions commencent à sortir de part et d'autre du côté des oppositions. C'est le Parti libéral qui est sorti tout à l'heure. C'est mon chef d'Éragie qui, d'ailleurs, était là. Lui qui a fait un job quand même assez stellaire dans les derniers jours à sortir différents documents en partie caviardés. On demande encore la démission de François Bonnardel, qui, lui, était le ministre des Transports précédent, et de Geneviève Guilbeault, qui est l'actuel ministre des Transports. Québec solidaire est en réaction aussi. On continue à demander une commission d'enquête publique pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé.
Essayez de vous imaginer un monde où il y a juste Éric Kerr, dans tous les noms que vous venez d'entendre, qui est au courant qu'on cache 222 millions de dollars de dépenses excédentaires.
C'est pas crédible.
Ça existe juste pas.
Ça se tient pas. Hein?
J'ai vu des science-fiction vraiment bizarres, là, mais je suis pas prêt à étirer mon élastique de crédulité jusque-là. Je suis content là, qu'Éric Kerr... Ben, ça se dit pas. Non, c'est mal dit. Je suis content qu'Éric Kerr perde sa job. C'est pas vrai.
C'est pas ça.
C'est pas vrai. Je pense que c'est un gars qui était...
Le principe de Peter?
Ben,
qui avait depuis longtemps dépassé les compétences pour le rôle qu'il avait.
Je prenais l'exemple ce midi de Brad Marchand au tournoi des Quatre Nations. Oui. Tu sais, il a réalisé que ça allait peut-être un petit peu trop vite pour lui puis qu'il était rendu peut-être un petit peu trop vieux pour être là. Tu sais, des fois, tu es sur une patinoire puis tout va trop vite. J'ai l'impression qu'à l'étage des ministres, c'était probablement un peu ça pour Éric Kerr. Mais au-delà d'Éric Kerr, puis il y a peut-être des gens qui disent « bon débarras », puis je sais pas si vous avez raison ou si vous avez tort, mais c'est pas vrai que ce gouvernement-là peut s'essuyer les pieds sur Éric Kerr. Il y a d'autres responsables, puis il y a d'autres coupables.
Non, puis il faut que la recherche se continue par rapport à tout ça. Puis comme je te dis, c'est pas juste une question de sa clique. C'est une question de tous les projets numériques du gouvernement à ce moment-ci. Fait que j'ai l'impression que ça va continuer à fouiller. Puis l'impact n'est pas uniquement sur le plan politique. Puis c'est une nouvelle qui date du début de la journée, mais c'est quand même assez inusité. On avait annoncé une nomination d'un haut fonctionnaire dans la journée d'hier sur l'Office des professions du Québec, un certain Pierre E. Rodrigue. Hier, en soirée, on a comme fait, non, finalement, c'est plus ça la nomination, on la rapatrie parce que lui est impliqué dans toute l'histoire de sa clique.
Bon.
Mais vous rendez-vous compte, son CV n'a pas changé en 12 heures.
Mm-hmm.
Ce qui a changé, c'est les perceptions publiques. Mm-hmm. Mais jusqu'à il y a 12 heures de
on
ça,
voit ce qui motive les décisions,
on trouvait que c'était encore une belle candidature.
Incroyable.
Fait que, tu sais, tout ce qui a été sorti, entre autres, par Le Devoir, par la presse, par le Journal de Québec, par Radio-Canada, quand tu vois les ramifications des gens qui ont eu des échecs dans d'autres organismes, que malgré tout, on a installé du côté de la SAAC, puis qu'on était en train de placer pour d'autres dans d'autres postes de direction, puis que jamais personne n'a levé de drapeau rouge en disant... Ouais, c'est peut-être pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir à qui on est en train de donner des nominations.
Hey, rétroactivement, là, avec un peu de recul, Nordvolt, Trump, Saclic, Lyon Électrique, c'était un bon timing. Tomber en amour, partir faire de la moto, hein?
Tu dis, toi?
D'après
lui, il
moi,
a compris l'affaire.
Ouais,
hein?
Lui voyait venir le train, hein?
J'entends l'entrevue dans 2-3 ans avec Ben Durkul.
La suite de...
Ouais, Fitzgibbon, là, quand il a pesé sur le eject de son siège éjectable, là, il savait que c'était le temps de s'en aller.
C'est ça, j'allais dire. Je ne sais pas s'il voyait venir.
Je pense que oui, moi.
L'autre grosse nouvelle, c'est la grève des cols bleus qui est suspendue. Hier, il y avait une journée de médiation. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que de part et d'autre, ça a suffisamment avancé pour qu'à partir de 16 heures aujourd'hui, on suspende les moyens de pression. Tout le monde semble être content de la situation à l'heure où on se parle. Il y a des rencontres qui vont débuter à partir de ce samedi, des rencontres de conciliation. Il y a le maire de Québec qui était en rencontre de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui. Notre collègue Jeff Fortin qui était sur place, il est allé nous chercher des extraits. D'abord, le timing est quand même bon. La relâche commence la semaine prochaine, fait que le maire a salué ce retour à la normale.
Alors, première des choses, ils mettent fin à leur grève. Je salue leur courage de faire, puis je salue c'est leur initiative de revenir à la table, puis de dire on veut revenir à la table. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. D'abord, principalement, puis on en a parlé pour nos jeunes, à l'aube de la relâche, on va tout faire pour que tout soit remis rapidement sur pied. On est à une question de jours près, dans les prochains jours, on n'est pas à la fin de la relâche. Nos équipes vont travailler d'arrache-pied.
Tout le monde est en train de tomber malade.
Je pense que j'ai tromperie, mon rhume arrive de où?
Est-ce que le maire t'a donné la grippe le
mardi? Je pense que j'avais le rhume avant lui, puis je me suis tenue très, très loin du maire. L'autre affaire, c'est que oui, on recommence à discuter salaire, mais là, il ne faut pas oublier que le maire, dans les dernières semaines, a répété à plusieurs reprises que les demandes d'école bleue étaient trop élevées. On peut peut-être écouter l'autre extrait.
Juste avant, il y a des gens qui nous posent la question, est-ce que les poubelles reviennent?
Il y en a qui ont recommencé ce matin.
À partir de 16h, oui. Tout revient à la normale. Normalement, j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour les activités sportives parce qu'il y avait des arrangements là, pour les prochains jours. Mm-hmm. Est-ce que tout ça tombe à l'eau puis qu'on revient une semaine de planification en arrière? Bien, on va se tenir au courant toute la gang en même temps. On est plusieurs parents qui sont un peu dans le brouillard présentement. On écoute Bruno Marchand sur les négociations.
Je vous donne ce que je vous ai toujours dit. La réponse est non. La capacité de payer des citoyens, elle ne change pas. Est-ce qu'il y a des modalités qu'on peut faire qui font en sorte qu'on en donne un peu sur le salaire, mais on en récupère sur le normatif, qui fait que pour la ville, ça ne coûte pas plus cher, on est ouvert à l'évaluer. Mais ça ne peut pas coûter plus cher à la ville. Donc, il faut trouver, dépendamment des négociations qu'on fera avec eux. Les deux parties ont démontré de l'ouverture. Il faut faire en sorte que le cadre financier reste le même.
Je pense que le syndicat des cols bleus avait juste pas le choix pour sauver la face. On s'en reparlera un petit peu plus en détail tantôt.
Peut-être rapidement, deux petites dernières nouvelles. Vous rappelez qu'il y a eu une opération majeure du côté de la prison de Québec aujourd'hui. Encore une fois, un bon timing. Hein? Hier, c'est François Bonnardel, l'ancien ministre des Transports, actuel ministre de la Sécurité publique, s'est fait challenger à l'Assemblée nationale sur la situation actuelle, la dégradation évidente de la sécurité au sein des établissements correctionnels. Et comme par hasard aujourd'hui, tu as entre autres la SQ, le service de police de la Ville de Québec, sont allés donner un coup de pouce dans des efforts de fouille.
François Legault, en l'espace d'une journée, est devenu l'annonceur maison du Rouge et Or Football. Il a demandé à ses ministres de faire du bruit! Faites du bruit! Faites quelque chose! On a besoin d'une diversion, ça presse!
Le ministère de la Sécurité publique n'a pas voulu donner beaucoup de détails sur ce qui se passait, mais entre autres du côté du Soleil, on semblait avoir des infos à l'effet qu'on visait particulièrement les membres du Blood Family Mafia qui sont détenus à ce moment-ci et qui s'en prennent au personnel. Donc, ce serait particulièrement eux qui sont visés. Au courant de la semaine prochaine, on devrait avoir les détails de ce qui aura été retrouvé à ce moment-là.
C'était le temps qu'il se passe quelque chose.
Mais oui, mais je peux pas croire pourquoi ça aurait été aussi long.
Il était plus minuit moins 5, non, il était minuit 10.
On était une couple de jours ou même plus tard, je te dirais. Puis en terminant, c'est Trump qui a encore reparlé des droits de douane visant le Canada qui entreraient en vigueur le 4 mars malgré le tsar du fentanyl qui a été nommé puis les conditions qui ont été respectées jusqu'à maintenant du côté du Canada. Et il y a eu réaction de Justin Trudeau en disant qu'on travaillait jour et nuit pour les éviter et qu'actuellement, le plan qu'on avait en février, si parfois c'est à ce moment-là qu'on aurait imposé des tarifs, tenait encore pour le mois de mars, qu'on avait 30 milliards de dollars de biens américains qui recevraient des tarifs dès qu'on imposerait des tarifs sur le Canada et qu'on a 125 milliards d'autres biens qui suivraient 21 jours plus tard.
Le saut qu'on va faire quand Donald Trump ne tiendra pas sa parole, c'est l'enfer. On va tout tomber sur le cul. 14h52, Three Doors Down avec It's Not My Time. Poudrerie sur Québec. S'il y a des choses à signaler, évidemment, on est proactif avec vous autres. On se tient au courant. 88-971-1021. Les excellents vulgaires machins avec obsolète juste avant Three Doors Down. Avec It's Not My Time, un peu de poudrerie sur Québec, 2 à 4 cm qui risque de s'accumuler dans les prochaines heures. Et on rajoute quelques centimètres supplémentaires pour ce soir et cette nuit. La température reste douce. On a moins 1 degré présentement à Québec. On descend à moins 5 cette nuit et on descend à moins 9 degrés au cours de la journée de demain avec un ciel qui va se dégager de plus en plus. Par contre, samedi 1er mars, les nuages sont de retour et la neige aussi. On prévoit un 10 cm. Sur les routes, Audrey?
Il y a un accrochage accès boulevard Champlain vers Pont-Pierre-Laporte-Sud. C'est partiellement entravé dû à cet accrochage-là. La voie de droite qui est bloquée à la hauteur du boulevard Champlain. Pour ce qui est sinon de ce qui se passe sur les routes ailleurs, là, la capitale direction ouest, ça commence à ralentir à la hauteur de Robert Bourassa. Et si vous êtes sur Laurentienne direction sud, vous allez chercher la capitale ouest dans la bretelle. Il y a des ralentissements qui commencent à se faire sentir aussi. Quoi que ce soit, 88 971 1021 texto.
La grève des cols bleus est suspendue à partir de 16 h cet après-midi. On dit que c'est parce que les négociations ont repris. Peut-être que plus cyniquement, c'était la seule alternative pour que le syndicat des cols bleus sauve la face auprès de ses employés et auprès de la population.
J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas vu venir le ressac.
Ouais.
Qu'ils s'attendaient à ce que la population soit de leur côté avec les arguments, entre autres, que hey, on va faire en bas du salaire de, des cols bleus de Lévis. Puis j'ai pas entendu personne dans la population être de leur bord. Puis je pense que ça, ils le voyaient pas venir du tout.
Les enfants, je pense que c'est ce qui a fait pencher la balance pour plusieurs. Puis tu parles de la population. Moi, je vais te parler des cols bleus eux-mêmes.
À l'interne, ben oui.
Parce qu'on jase avec des cols bleus. Je sais que Marceau a une couple de contacts de son bord. Il y en a qui nous écrivent dans le retour. Puis il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents. Puis moi, je suis convaincu qu'il y en a qui sont allés voir leur exécutif là, pour dire « Hey, on est-tu bien enligné, nous autres, là? »
Avec une grève avec ces moyens-là.
Tu sais, déjà, le nombre de plaintes a explosé à la Ville de Québec en l'espace de quelques jours, puis tout le monde est au courant de ce qui se passe. Comment on va être traités, nous autres, quand on va retourner dans les trottes, là, pendant que vous autres, vous allez être cachés dans un bureau? Et on a parlé au maire, nous, en début de semaine. Puis le maire a été particulièrement gentil avec ses cols bleus.
Oui, en saluant entre autres leur travail pour tout ce qui est le déneigement, puis qu'en général, ils font une superbe job. On avait mis entre autres en relief le fait qu'il y a seulement le secteur de Beauport puis Haute-Saint-Charles qui ne sont pas desservis par des sous-traitants, mais dit ils fonctionnent super bien les cols bleus d'habitude. Il n'y a pas de problème.
C'est des bons employés.
Ouais.
Le maire est allé plus loin que ça. Le maire a même expliqué que c'était peut-être pas de la faute au syndicat des cols bleus si tout était suspendu. Il est allé jusque-là.
C'est vrai, en parlant du tribunal administratif du travail.
Il nous dit, ce que les cols bleus ont essayé, ça n'a pas marché. C'est le tribunal du travail qui n'a pas voulu. Vous partez en grève ou vous partez pas en grève.
Ouais.
Vous faites pas un
pas
juste milieu.
De moitié, oui.
Fait qu'après ça, tu te vires de bord, puis tu peux aller dire, hey, passe donc le message que nous autres, de notre côté, on vous a comme donné un gros break médiatique cette semaine-là. Oui, les salaires ont coulé, mais après ça, on est sur le retien. Là. Venez vous rasseoir, mais surtout arrêtez vos niaiseries. La semaine de relâche s'en vient. Là, je pense que c'est le message qui a été lancé. Puis le syndicat des cols bleus le dira jamais. Il n'y a rien de plus égocentrique qu'un président de syndicat. Mais ils n'ont pas vu venir le train. Puis je pense que les premières protestations qu'ils ont eues, c'est même pas dans la population, c'est au sein des cols bleus eux-mêmes. J'ai reçu mon courriel de hockey dans les dernières minutes.
On se posait la question parce qu'il y avait des plans B qui avaient été mis en place.
Oui, exact. Puis il y a des gens qui nous posaient la question tantôt. Les vidanges. Bien, à partir de 16h cet après-midi, tout le monde gagne à l'auto-vidange. Ça veut dire que si c'est demain, votre journée de poubelle...
Sortez les bacs à soir.
C'est reparti, les amis. Puis pour le hockey, c'est sensiblement la même chose. Hockey Charlebourg qui nous a envoyé un courriel à tous les parents dans les dernières minutes. Les activités vont reprendre normalement à compter du 28 février à 8h.
C'est demain, ça.
Mais tout ce qui a été modifié reste modifié. Donc, ceux qui ont eu de nouveaux avis, de nouvelles heures de match, de nouveaux arénas en fin de semaine, la consigne qu'on a, c'est de rester avec les modifications. Mais à partir de lundi, les pratiques reprennent comme prévu, puis normalement, le calendrier régulier des matchs également. Là, je ne veux pas parler pour toutes les associations de hockey, mais j'imagine
que... Allez voir vos courriels.
Ouais, j'imagine que tout le monde fonctionne un peu de la même façon, parce que c'est toutes des associations qui se sont parlé pour permettre de faire de la place aux équipes de Charlebourg, de Beauport, de Québec-Centre et ainsi de suite. Puis c'est pour ça qu'on avait moyenné une fin de semaine avec des matchs un peu moins longs, des 10 minutes chronométrées par période, mais qui permettaient à tous les enfants de la grande région de Québec de continuer de jouer au hockey. Puis encore une fois, je vais le dire, là, bravo aux associations, vous avez fait de la job incroyable. On a de la misère à faire des horaires pour toutes les activités sportives avec toutes les arénas ouvertes temps plein.
Imagine comment ils se sont forcés le derrière pour ça.
Incroyable, incroyable. Bravo à tous ceux qui ont fait preuve d'imagination et de débrouillardise. Donc, dans une heure, les cols bleus commencent à travailler. Tombe bien, il neige. Puis normalement, ils seraient tombés...
En bas de 9.
Ouais. Normalement, on serait à 8 cm à la fin de la nuit. Fait que les grades vont sortir pareil, on va être correct. Hey, on fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Un oui.
En espérant que la petite neige ne complique pas trop vos déplacements dans les prochaines heures, Si on compte la soirée, la nuit et les prochaines heures, c'est près de 7 ou 8 cm de neige qui vont tomber. On vous rappelle qu'on n'a pas besoin de sortir la règle. Les cols bleus recommencent à travailler aux environs de 16 heures. Fait qu'ils tombent 2 cm, 4 cm, 8 cm. Les grattes ressortent ce soir.
Déneigement pour tous!
Oui, vous gagnez la loto-déneigement. Et à partir de demain, vous gagnez l'auto-vidange, maman! Sur les routes, comment ça se passe, Audrey?
Il y avait un accrochage un peu plus tôt près du pont vers la porte direction sud. Ça vient juste d'être ramassé, mais les dommages sont faits. Il y a quand même pas mal de congestion. Là, si vous êtes sur Henri IV direction sud, vous allez chercher le pont. Ça ralentit à partir de Charest. Parlant de Charest direction ouest, l'accès à Henri IV sud est partiellement entravé. C'est une panne que de ce côté-là. Et il y a déjà des problèmes aussi sur la capitale direction est à la hauteur de Robert Bourassa, ouest à la hauteur de Laurentienne.
On a appris au début de la semaine que la décision de la Ville de Québec était prise concernant le Colisée puis qu'on voulait le mettre à terre. Avez-vous déjà douté de la volonté de la Ville de Québec de mettre ça à terre, le Colisée? Avez-vous pensé à un moment ou à un autre que la Ville avait peut-être l'intention de garder la structure?
Ah, moi, il y a un moment, là, quand on parlait de besoin de logement et tout, là, sans connaître à quel point c'était désuet, là, où je me disais qu'on pourrait, on aurait pu la transformer facilement.
Moi, j'ai pensé que la Ville attendait juste qu'il s'effondre. Ben, à un certain moment donné, tellement qu'il semblait comme... Ah, on attend de voir les projets, puis qui se positionnait pas.
Il y avait
pas,
une affaire qui était sortie. Il n'y avait pas un but, à un moment donné, de faire une espèce de centre sportif avec des skateparks.
Ben oui.
Mais c'est tout du monde qui ne connaissait pas l'état intérieur du Colisée. Puis je suis un peu d'accord avec toi, Véro. Moi, j'ai l'impression que la stratégie de la Ville, depuis le départ, c'est de faire traîner le dossier le plus longtemps possible pour être obligé d'arriver à un moment donné puis dire... Hey, les chums, les ronds ont eu le dessus, puis tout ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'il est trop tard, c'est de sacrer ça à terre.
La même stratégie que les propriétaires d'immeubles dans le Vieux-Québec qui veulent pas rénover.
Non, oui, exactement, même chose. Mais quand on fait ça avec l'argent des contribuables, puis c'est un petit exemple de rien du tout, mais ça nous montre comment on peut s'enliser dans des dépenses puis des dépassements de coûts. Parce que garder ça de bout, le Colisée, tout le temps qu'on l'a gardé, vous savez que ça nous a coûté une coupe de bâton? Ça nous a coûté cher! Particulièrement les deux dernières années. Les deux dernières années, pour garder le Colisée debout, ça a coûté un... En fait, OK, je vais y aller tranquillement là, pour être sûr de ne pas me mêler. Là. Depuis 2015, le garder debout, ça a coûté 1,2 million de dollars.
2015, c'est sa fermeture, c'est l'ouverture du centre Vidéotron.
Mais la moitié de cette somme-là, c'est dans les deux dernières années.
Ah ouais.
Oui.
Mais il n'arrive pas avec un certain remboursement quelque part avec le fait revenu. Qu'il loue il y avait,
effectivement,
la place.
Dans les premières années, il y avait des revenus qui provenaient de locations, d'entreposage. Je pense qu'il y avait à un moment donné des pratiques du Cirque du Soleil aussi qui avaient pu se tenir entre les murs quand c'était encore « habitable », entre guillemets. Là.
L'entretien minimal réalisé au Colisée avait coûté 438 100 $ à la fin de l'année 2024. Un peu moins de 50 000 $ qui ont été déboursés en moyenne au cours des 9 dernières années. Mais la courbe des sommes décaissées s'est accélérée au cours des 2 dernières années. Une colonne pour des investissements en pérennité s'est ajoutée à la facture. Ça a fait grimper le bill de plus de 720 600 $ Entre autres, l'année 2023, on a dû faire des interventions majeures pour le remplacement des chaudières, pour des services professionnels, du nettoyage après travaux. Et seulement cette année-là, les dépenses ont dépassé le demi-million de dollars. C'est un micro-exemple de la décision était prise. On ne l'a pas faite.
On l'a laissé traîner en longueur.
On a trouvé un paquet d'excuses qui tenaient plus ou moins la route pour ne pas le faire.
C'est-tu qu'on ne l'assumait pas pour ne pas déplaire, mettons, aux citoyens?
On voulait juste attendre de ne pas avoir d'autres alternatives, puis on ne voulait pas justement se lancer dans un débat émotif ou nostalgique. Fait qu'on a décidé d'attendre. Fait que cette attente-là, en gros, dans les deux dernières années, ça nous a coûté 700 000 ou 750 000 $
Tout ça pour ne pas avoir besoin de se battre pour son image sur la place publique, de dire « Hey, nous autres, si on pouvait, on ferait un show comme à Vegas avec de la dynamite dedans. »
T'sais, le garder debout en attendant de le démolir, parce que c'est un peu ça. Là.
Oui, parce que c'est ce qui va se passer de toute manière. En fait, on va le déconstruire, ce qui va coûter encore plus cher.
Ben oui, ça va être encore plus long, puis effectivement, ouais. Ça va coûter encore plus cher. Si on s'était débarrassé de ça, tout de suite à la fin du show de Metallica. Les derniers pétards du show de Metallica, là, ça aurait pu être le début de l'implosion du Colisée.
Ça aurait looké, hein?
Vous allez me dire que ça aurait pas été sécuritaire.
C'est sûr que le monde aurait tant trippé que ça.
Ah, au niveau d'alcool, à la fin du show de Metallica au Colisée, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se seraient pas rendu compte du danger. Mais plus sérieusement, on aurait dû faire une pierre deux coups à une époque où tout coûtait un petite affaire moins chère.
Tu sais, au début de la semaine, quand on en a parlé avec le maire, quand il est venu nous voir, il dit « Ah, les gens sont plus attachés à l'ancienne infrastructure du Colisée, la version pré-rénovation. » Mais on le savait tout, ça. On était tous au courant. T'sais, du moment où on a commencé à construire le centre Vidéotron, puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus rien faire avec le Colisée, déjà à ce moment-là, on disait « Ouais, le Colisée qui était historique, c'était ce Colisée-là avec l'arche en avant, puis il y avait une façade qui était reconnaissable. Pas la boîte de tôle qu'on a mis par-dessus. »
J'ai pensé à ce qu'on pourrait faire pour...
L'immortaliser.
L'immortaliser, puis bon, évidemment, probablement qu'il va y avoir une petite place avec une plaque puis des photos, mais je pensais à quelque chose d'interactif qui coûte pas trop cher. Je me disais, ouvrir, pas nécessairement une boîte vocale, mais peut-être un messenger où tu peux envoyer des messages, puis tu demandes aux gens de Québec de partager leurs souvenirs du Colisée. Et avec ça... Tu fais un montage. Tu peux le faire virtuel, tu peux le faire en image.
C'est une bonne idée.
Avez-vous vu l'exposition sur la lutte au musée?
Non, je ne l'ai pas vu. Non.
Ceux qui l'ont vu, là, vous allez voir de quoi je parle. Avec des projections holographiques, on est capable de faire des affaires complètement débiles. Imaginons-nous qu'on se fait une trame d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes où tout ce qu'on entend, c'est des gens de Québec qu'on ne connaît pas. Pas des personnalités, des gens de Québec qui racontent leurs souvenirs du Colisée. Puis tu as une trame d'images qui suit ça un peu. Donc,
dans une espèce de couloir, mettons, là, qui ferait partie de la nouvelle construction.
Quand tu vas dans ce coin-là, tu peux bluetoother là, la patente, tu pars ça, puis ça part. Puis là, ça part! Puis t'essayes de trouver des images d'archives, t'essayes de trouver des extraits vidéo, puis les gens racontent leurs souvenirs.
Et tu peux même mettre des extraits de matchs, si tu veux, à travers tout ça, des extraits de concerts. Denis, je pense que tu as quelque chose entre les mains.
Ben, je me suis toujours vu, je le dis pas souvent, mais je suis un visionnaire et un influenceur.
Mais depuis que tu fréquentes Robert Lepage, ton côté multimédia s'est développé énormément.
Ça fait un an, hein? Ça fait un an qu'on est amis, moi et Robert Lepage.
Vous textez toujours?
Un an et une semaine, on enregistrait le podcast de Gravel dans le retour.
Parce que c'est une vraie amitié solide. Les vraies amitiés n'ont pas besoin de se tenir au courant.
T'as raison.
Un an, deux ans, trois ans à part, c'est la même affaire.
J'attends encore la demande pour aller vider une bouteille de vino sur le dessus du piano de Peter Gabriel.
Effectivement, ça va venir, Denis.
Oui, oui, Peter qui joue du piano, puis moi puis Robert Lepage, ben chaud, qui chante du vieux Genesis.
Au diamant.
Quelque chose de le fun, mais j'ai pas eu d'invitation encore. C'est malheureux.
Mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est une idée qui n'est pas trop contraignante non plus sur un plan architectural.
Il me semble que ça ne coûterait pas une fortune faire une affaire de même. Et on a les créateurs, tu parles de Robert Lepage, on a les créateurs dans notre cour qui peuvent faire en sorte qu'il y ait un aspect visuel à tout ça, tu sais. Hey, pis,
imagine que tu finques que c'est l'entrée du Colisée. Que c'est comme si tu entrais dans le Colisée, tu gardes une des portes de ce type-là, puis tu te fais vivre une petite immersion historique. C'est pas obligé d'être gigantesque, là.
Pouvez-vous croire qu'ils n'ont pas fait ça à Montréal avec 24 Coupes Stanley dans leur ancienne aréna?
C'est pas de bon sens, ça.
Imagine-toi le nombre de souvenirs que tu aurais pu mettre dans cette espèce de trame-là, puis je veux pas lancer un concours, mais ce qui va être le fun, c'est que tu vas voir, puis on le sait, on l'a fait en début de semaine, tu vas avoir des souvenirs de sport. Tu vas avoir des souvenirs de remparts, tu vas avoir des souvenirs de Nordique, tu vas avoir des souvenirs de Coupe Stanley. Ah, peut-être non. Pas. Je vous agace, pognez pas les nerfs, je vous agace. Tu vas avoir des shows, un paquet de shows.
Le Cirque du Soleil qui est passé je sais pas combien de fois à l'intérieur aussi.
Ça va être le fun. Ça serait le fun. Il me semble que ce serait quelque chose.
Ça laisserait une belle trace derrière, mais j'ai comme l'impression que les gens qui sont en poste là, à la ville, là, ici ou de l'autre côté, là, j'ai comme le sentiment qu'à un certain point, c'est comme si peut-être parce qu'ils ont connu, ils voient pas l'importance que ça a de durer dans le temps.
Ah, je pensais que tu allais dire que tu n'étais pas sûr qu'ils allaient être en mesure de réaliser ça parce que tu trouvais que le réseau social est un petit peu poche.
Oh! Il y en a qui suggèrent Éric Kerr comme étant chargé de projet vu qu'il y a du temps libre ces temps-ci.
On va essayer de le tenir loin de tout ce qu'on veut qui fonctionne. Je pense que nous autres, on doit apprendre ce que le gouvernement n'apprend résolument pas.
C'est une bonne idée, juste garder la billetterie au début. Tu sais, t'arrives, t'as la porte, t'as la billetterie, puis après ça, t'as ça.
niaiseusement parlant, à l'exposition de la lutte, moi, c'est quelque chose qui m'a touché. On a recréé une gate de billetterie extérieure avec la vieille caisse enregistreuse. Et moi, juste des petites affaires de même, des petits clins d'œil de même, ça me donne la... Ça me donne la chair de poule.
C'est une exposition qui est toujours là en passant. L'exposition de Denis Parle au Musée de la civilisation, Lutte, le Québec dans l'arène, elle se poursuit jusqu'au 20 avril 2025. Par contre, on est dans le dernier droit. Vous cherchez des activités la semaine prochaine pour la relâche, puis vous voulez voir un pan d'histoire de la ville de Québec.
T'es-tu allé?
Je suis pas allé.
Vas-y donc.
C'est drôle, quand est-ce que j'en ai entendu parler autre que par toi? Je m'en souviens pas, mais c'est dans ma bucket list, je dois aller voir
puis, ça. Tu sais, à la lumière, tu sais, j'aimerais ça, je veux pas te donner des devoirs, puis je veux surtout pas te dire quoi faire, notre relation fonctionne dans l'autre sens
habituellement.
mais va au musée, va voir l'exposition, puis pense à ma vision pour qu'est-ce qu'on fait avec l'après-Colisée.
Ben, on se fera une date, Véro.
On pourrait aller ensemble, puis on prendra des notes, puis on pourra les offrir au maire Marchand quand il reviendra nous voir en studio. Voici, on a fait du travail pour le prochain projet que vous allez installer sur la ruine du Colisée.
Je peux pas croire que vous faites une date de lutte puis que je serai pas là. Il y a quelque chose dans ma tête qui fonctionne juste pas.
Il y a de l'histoire.
T'es déjà allé, là.
15h23, vous êtes à Boulevard 102.1. J'imagine qu'en se parlant, il y a des idées qui vont germer. Puis il y a moyen de faire ça sans se ruiner. Puis il me semble que de faire cette espèce d'expérience virtuelle-là, ben peut-être qu'on aurait quelque chose d'unique puis de le fun. On a fait des choses le fun là, avec les statues révolutionnaires à place Jean Béliveau. Oui. Au début, on n'était vraiment pas sûr.
La première là, qui ressemblait plus au jet qui est installé devant la base militaire du côté de Bagotville.
Ouais, mais le monde y arrête, puis ils se mettent ça à pastille. Puis après ça, ils mettent leurs enfants sur la pastille. Bon, tu le vois-tu, le joueur? Puis après ça, ils ouvrent Google, ils trouvent la photo originale, puis ça fonctionne.
Ça fonctionne super bien. Entre autres, les enfants s'arrêtent. Ben
les
oui.
sceptiques que nous étions ont été confondus. Moi, grâce à la statue des joueurs de hockey Stachny.
Le hockey sur table, là?
Oui. J'ai eu la conversation sur les frères Stachny, le contexte politique, que pour qu'Alexander Ovechkin joue dans la Ligue nationale de hockey, ben à une certaine époque, il n'y avait pas le droit. Parce qu'il n'y en avait pas des joueurs qui venaient de l'autre bord de l'océan. Puis les premiers qui sont venus l'ont fait au péril de leur vie. Les Stachny, il y avait quasiment des agents du KGB dans le dos, là. Il y en a même qui vont vous dire qu'il y a une couple de balles qui sont sorties de revolvers, là, dépendamment qui raconte l'histoire et comment.
Là, il y a plein de souvenirs oubliés qui ont été envoyés, comme les coupes des Bulldogs. Okay? Ça va être tough de trouver les audios de gens qui se souviennent de ça.
Oui.
L'Anse et Compte a eu des tournages du côté du Colisée. Ça fait partie de l'histoire du Colisée.
Ben écoute, moi, je me faisais ramasser à chaque fois que je voulais qu'on mette la bannière du National puis qu'on retire les numéros de Pierre Lambert et Denis Mercure. On me prenait pas au sérieux. Mais peut-être que ça peut faire partie de l'enveloppe. Hey, 15h25. On écoute Green Day avec Holiday à Boulevard. Un petit peu de neige. Ça lâche pas pour ce soir et cette nuit. Demain, ciel dégagé avec un moins 9 au Mercure. Merci d'être des nôtres. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1 BLVD.FM. L'application Boulevard à deux clics d'être live avec nous autres, de rattraper ce que vous avez manqué, d'avoir accès aux multiples podcasts, entre autres choses. On a une chaîne YouTube également avec le visuel, des performances, un paquet d'affaires. Allez fouiller là-dedans, vous allez vous perdre, mais dans le bon sens du terme. Véro?
On vous a parlé un peu plus tôt aujourd'hui de la grève des employés manuels d'École Bleue qui était suspendue à partir de 16h cet après-midi. On a reçu dans les dernières minutes un communiqué de la Ville de Québec qui informait les citoyens qu'effectivement, pour ce qui était de la reprise des collectes dans les secteurs de Beauport et de Haute-Saint-Charles qui étaient touchés par la grève, les autres font affaire avec des sous-traitants, bien de vérifier sur InfoCollect parce que la reprise se faisait là. Fait que ceux qui avaient comme pas prévu le coup, là, va falloir aller de l'avant assez rapidement, ce qu'on peut comprendre.
Syndicat d'École Bleue, vont-tu payer mon troisième bac que je me suis acheté chez Canac en début de semaine? Ils serviront à rien!
Fait que c'est à partir de demain. Fait que si, d'habitude, votre journée de collecte est le vendredi, Ce sera encore une fois cette semaine, le vendredi. On dit qu'aucune reprise n'aura lieu pour le recyclage. Mais allez voir toutes les informations sur InfoCollecte, sur le site de la Ville de Québec, selon l'endroit où vous demeurez.
Dans la circulation, Audrey?
C'est difficile sur la capitale, direction ouest entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne. Il y a des problèmes si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, là, entre Charest et Wilfrid Hamel. Parlant de Charest, direction est, ça commence à ralentir entre Henri IV et Robert Bourassa. Henri IV, direction nord, c'est difficile dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle. Direction sud, ça commence à ralentir à Wilfrid Hamel jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Là, c'est dû à l'incident qu'il y avait un peu plus tôt. Ça crée quand même des... j'ai dommages en tête, là, mais des...
Des ralentissements, des conséquences.
Des conséquences, des tout
comme
ça.
C'est ça qu'à ton jour de venir.
Duplessis, direction...
Plein de mots compliqués de trois syllabes que je maîtrise plus ou moins. Là.
C'est... J'essaie des fois de trouver comme des synonymes pour pas toujours dire le mot « il y a des problèmes » ou « ça ralentit », tu sais, mais c'est difficile.
On devrait te faire un petit dictionnaire.
Ah, je pense que c'est la fatigue qui embarque. Si vous êtes sur Duplessis, direction sud, ça se passe à la hauteur de chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée des ponts, et pour la 20, direction ouest, c'est à la hauteur de chemin des îles. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
Sais-tu comment je sais que la fatigue embarque?
Oui.
Quand tu dis « la fatigue embarque », C'est là que j'identifie qu'Audrey commence à être fatiguée.
Le petit rire en décontrant.
Hey, t'as oui. pas tort.
Mais c'est pas la première fois que tu nous le sors.
J'avais jamais remarqué.
Il sort juste quand t'es fatiguée.
Bon, c'est bon savoir.
Ça doit être la fatigue.
Je suis prévisible.
On l'est tous un peu. On est ici à tous les jours, et après tout. Hein. Véro, est-ce que le mystère s'éclaircit ou s'épaissit concernant le décès de l'acteur de renom Gene Hackman, de sa femme et de son chien?
Il s'épaissit. Aux environs de quoi 5h30-6h ce matin, il y a une nouvelle qui sort. Elle est fait que Gene Hackman, un acteur bien connu qui est décédé à l'âge de 95 ans, lui avait pris en passant sa retraite du cinéma il y a une quinzaine d'années à peu près, mais qu'il avait été retrouvé mort avec sa conjointe, mais aussi un de leurs chiens. Et là, sur le coup, c'est bien mystérieux. Les dernières images qu'on avait vues de Gene Hackman, c'est un monsieur de 95 ans. Fait que là, il y a un tas de théories qui arrivent.
Moi, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me dire, ils ont décidé qu'ils s'en allaient. Peut-être qu'il y en a un des deux qui était tombé malade. Tu te dis, à 95 ans, j'ai fait une bonne vie.
Les deux étaient ensemble depuis 34 ans.
Ouais, je vois presque un peu de romantisme.
De Notebook. Là.
Dans cette façon-là de partir à un âge très avancé, de dire, hey... Je pense que je vais clairer à la place. Je m'en viens malade ou je perds mes facultés. Je suis rendu à 95, pas pire. Pareil. Quoique sa blonde était plus jeune.
63 ans qu'elle avait, Betty Arakawa, qui était une pianiste classique. En passant, ceux qui ne replacent pas Gene Hackman, là, c'est le Lex Luthor de notre enfance dans les premiers Superman. C'est lui que vous avez vu dans The Unforgiven, The French Connection, le Poséidon, le Mississippi Brûle, la firme. T'sais. Il a été une figure marquante pendant 4 décennies dans l'univers du cinéma. Il a gagné 2 Oscars. Ensuite de ça, sa fille est sortie en disant... Moi, je pense que c'est une fuite de gaz. Tu sais, pour que le chien décède aussi.
Ouais, c'est le chien qui est louche, là.
C'est effectivement, ils ont toujours pas achevé le chien en partant avec eux autres.
Mais si on l'a vu dans les nouvelles une fois de temps en temps, puis c'était pas nécessairement un geste délibéré, mais quand il y a une fuite de monoxyde de carbone,
tu le sens pas.
Tout le monde s'endort, personne se réveille, les policiers arrivent, tout le monde est décédé. C'est arrivé à quelques reprises là, dans la province de Québec.
Oui, puis c'est pour ça qu'on fait souvent de la sensibilisation au fait que si vous avez une source de gaz qui touche la maison, arrangez-vous pour avoir un détecteur de CO2. Et là, plus ça avance, plus il y a des détails qui sortent. D'abord, les personnes qui ont trouvé les corps, c'est des gens qui s'occupent du terrain, n'étaient pas allés depuis 2 semaines, fait qu'ils les avaient pas vus depuis 2 semaines. Quand ils sont arrivés, la porte d'entrée était entrouverte. Il y avait 2 chiens qui étaient à l'extérieur, fait que 2 qui étaient en vie, vous comprendrez à ce moment-là. Ils ont appelé les autorités quand ils ont constaté qu'il y avait les corps à l'intérieur. Et selon les autorités, il y a aucun signe de fuite de gaz ou d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Et là, plus ça va, plus il y a des détails. Il y a une enquête qui a finalement été ouverte parce qu'au début, on disait qu'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle des foul play. Il ne semble pas y avoir de gestes criminels. Sauf qu'à l'intérieur, ils ont d'abord trouvé le corps de la dame Betty Arakawa dans la salle de bain, effondrée au sol avec des pilules à ses côtés.
Les deux n'étaient pas à la même place.
Les deux n'étaient pas à la même place. Le chien était dans un garde-robe à 10-15 pieds à peu près, d'où on a retrouvé le corps de la femme. La femme qui était décédée depuis un certain temps déjà, parce qu'on dit que le corps était en état de décomposition, que les mains et les pieds avaient commencé à être momifiés et que le visage était gonflé. Gene Hackman était dans une pièce, une chambre de l'autre côté de la cuisine. Il était, on dit qu'il était habillé puis qu'on pense qu'il est tombé parce que ses lunettes étaient un petit peu plus loin au sol. Mais on n'a pas d'autres informations à ce moment-ci. La femme semble être tombée, elle aussi, parce qu'on dit qu'il y a un appareil de chauffage qui était au sol, puis c'est comme si elle l'avait accroché en tombant.
Si les deux ont décidé de faire un pacte puis de faire en sorte que du monoxyde de carbone remplisse la maison, si les deux avaient été retrouvés au même endroit dans des postures paisibles, j'aurais penché vers cette théorie-là. Peut-être qu'il y a eu un mouvement de panique aussi, là, puis qu'il y a une personne qui s'est déplacée. Ça peut arriver, mais toutes les théories sont un peu dans les airs. Tu sais, on a un auditeur qui est pompier, puis ça a été son premier réflexe aussi. Il dit « Mon premier réflexe, je suis pompier », ça a été de penser à une intoxication au monoxyde de carbone pour Gene Hackman, que ce soit volontaire ou non.
Mais là, selon les autorités, c'est pas le cas. Fait qu'à ce moment-ci, il y a une enquête qui a été ouverte pour tenter de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette histoire-là.
Ce que je trouve particulier, c'est qu'il y en a pas un qui entend l'autre tomber, puis à un moment donné, tu sais, quand c'est pas voulu, comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas simultané, cette affaire-là.
Là. La porte était entrouverte, mais on dit qu'il y avait pas de signe d'une entrée forcée. Mm-hmm. Fait que ça reste très, très, très nébuleux à cette heure-ci. Je sais que tantôt, le site apostin TMZ a, entre autres, rendu public l'appel qui a été fait au 911, un appel qu'on dit très, très, très émotif parce que c'est des gens qui semblaient aller régulièrement s'occuper des environs de la résidence ou de la résidence, si on veut, là, aux deux semaines. Fait que c'est là qu'on est rendu dans l'histoire de Gene Hackman où, tu sais, ce matin, c'est comme, ben, il avait 95 ans, puis c'est un âge plus que vénérable. Mais là, actuellement, ben, on est peut-être ailleurs à ce moment-ci.
Il y a un épisode de la série Last of Us, qui d'ailleurs va reprendre dans quelques semaines, où on voit un couple qui décide que c'est assez. Il y en a un qui est malade.
Oui. L'épisode des fraises.
Les deux, oui. c'est un épisode qui aurait dû gagner tous les trophées de la Terre, là, si on me demande mon avis. C'est un couple qui, justement, décide que c'est assez. Bon, le fait que la Terre soit envahie de zombies, ça doit aider un petit peu le processus de dire « Hey, on sac notre camp, là. »
Mais
il y en a un des deux qui est malade, puis il est magané, puis bref, les deux décident
que c'est la fin.
Décident que c'est la fin, puis on voit des scènes ultra romantiques où ils font leur dernier souper, puis ainsi de suite. Puis je pense qu'il y avait quelque chose dans le vin que les deux ont pris, puis ça se termine comme ça.
Mon Dieu, j'ai pleuré cet épisode.
Mais vous pensez quoi de ça? T'sais, mettons que ça aurait été ça, là, Gene Hackman puis sa femme. Il y en a peut-être un qui est tombé malade. Puis les deux décident que c'est terminé. Je vois pas ça comme un suicide.
Moi,
dans la trentaine.
Moi, je trouve que ça leur appartient.
J'ai de la misère à mettre ça dans le même sac. Puis j'ai de la misère à vous expliquer pourquoi aussi.
Denis, le nombre de fois qu'on a entendu des histoires... Tu sais, c'est poche, hein? Dans notre société, quand tu vieillis, le système va faire des fois que tu ne peux pas vieillir à la même place que l'être aimé, qui vont être placés à deux endroits différents. Puis chaque fois, quand ces histoires-là s'en viennent dans les médias, tu as l'impression que les deux vont mourir sans être ensemble.
Je voulais soulever la question avec vous autres, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Nous autres, quand on va être vieux, il va manquer de place partout. Puis à partir du moment où on va être malade, puis que nos enfants ne voudront pas s'occuper de nous autres, on va être une maudite gang à être dans le trouble. Puis je pense que ça va devenir de plus en plus commun. Des gens qui... dans la soixante-dizaine, la quatre-vingtaine et ainsi de suite, des gens qui décident juste « Bon, ben moi, je suis rendu trop ici, je ferme les lumières. »
Denis, je me demande même si ça ne s'est pas déjà fait avec l'aide médicale à mourir.
Ben oui, absolument.
Ce n'est pas des dossiers qui sont publics, mais tu sais, deux personnes qui sont carrément en fin de vie, qui sont en souffrance pour des conditions médicales qui ne peuvent pas se résorber, etc., etc., j'imagine que tu peux faire la demande. Hey, on aimerait ça que ça arrive en même temps. Hein.
Tu penses quoi de ça, Audrey?
Mais je trouve ça touché parce qu'il y a comme un moment où je comprends que tu dis, mettons, c'est pas un suicide, mais je pense que c'est une question d'âge à ce moment-là parce qu'un couple qui le ferait dans la quarantaine, ça bosserait pas.
Non, c'est au-delà.
On dirait que ce serait un suicide. Là. Et je pense qu'il y a la pitié, effectivement, qu'à un moment donné, la maladie embarque ou que tu as perdu tes proches ou tu n'as pas de famille, tu es dans la solitude, justement. Et j'ai de la misère avec ce principe-là quand c'est pas de la maladie.
Mais Audrey, ma grand-mère s'est laissée mourir. Elle est morte un an après mon grand-père.
Oui, il y a des histoires aussi dans ma famille comme c'est ça, des gens qui ont arrêté de manger, là, qui ont fait grève de la faim.
Sa santé a décliné de manière tellement rapide. Pourtant, elle avait ses enfants, elle avait ses petits-enfants. elle était encore à domicile. Et
c'est dur parce que tu veux pas faire la promotion de ça parce qu'il faut pas que ça devienne toi, une porte.
Non.
Tu sais, ça faut pas que tout le monde se laisse mourir à 70 ans parce qu'ils sont écœurés.
Mais sans faire la promotion, peut-être que dans 40-50 ans, ça va être devenu une chose courante qui sera pas quelque chose d'extraordinaire, tu sais.
Qui sera pas unique, tu veux dire.
Puis encore là, il y a beaucoup d'étages de questionnement, puis je vous en donne un autre. T'sais, vos parents veulent partir de même. Voulez-vous qu'ils vous mettent au courant? Voulez-vous les empêcher de partir? C'est quoi votre premier réflexe? Parce que j'imagine que des gens en fin de vie qui prennent cette décision-là qui doit être excessivement difficile se disent peut-être « Ouais, ben on n'avertira pas personne parce qu'ils vont tous essayer de nous empêcher. Puis là, on va s'ostiner, puis il va avoir de la peine, il va avoir de la colère, puis tout ça. On va laisser une lettre à quelque part ou quelque chose du genre. »
Non, moi, ça, pour moi, c'est un énorme manque de sensibilité, de respect à l'égard de tes proches. Ça, pour moi, je dis-moi-le. Mm-hmm. Puis dis-moi que c'est ta décision, qu'elle est prise, puis que tu veux pas que je te convainque, je vais en broyer une shot, je vais être en tabarnak.
Il y en a plusieurs que, quand ils font justement l'aide médicale à mourir, ils disent juste 24 heures à leurs proches en avance.
Mais je vais respecter, puis je vais m'assurer de passer le meilleur des derniers moments possibles avec toi, tu sais.
Ouais.
Mais moi, j'aurais de la misère à ce que mes parents me disent ça demain matin. C'est sûr aussi que c'est dur de se projeter parce que moi,
mes parents sont jeunes.
Et puis au-delà de ça, tu sais, c'est il y a une différence, je pense, en ce que tu ferais pour toi-même puis ce que tu souhaites pour tes proches aussi. Mm-hmm. Tu sais, peut-être que j'aimerais ça avoir l'accès à l'aide médicale à mourir. Moi, si vieille, je me rends compte que je suis plus bien pantoute. Ouais. Mais j'ai de la misère à imaginer demain matin que mes parents partiraient de cette façon-là.
Parce que c'est un peu une crainte que notre génération puis que ta génération va avoir. C'est qu'on va être une maudite gang. Elle peut être bien nulle part.
Ouais.
Parce qu'on va être trop nombreux, parce qu'on va demander trop de soins, puis avec, sans appeler ça de l'acharnement médical, grâce aux nouvelles technologies, puis ainsi de suite, ben t'as moyen d'étirer la durée de vie sans nécessairement étirer la qualité de vie.
Puis j'ajoute aussi à ça, Denis, le côté médical, mais le fait qu'on est très individualiste comme société aussi. Tu sais, de plus en plus, t'en vois plus grand monde là, qui vont vouloir prendre soin de leurs parents rendus à 80. Ils ont leur famille, ils ont aussi, tu sais, ils ont un quotidien. Ils vont plus visiter d'un RPA. Fait que ces gens-là se ramassent tellement seuls et malheureux. Là.
Puis tu vas en avoir des pubs du gouvernement dans 15-20 ans. Tu sais, au lieu de te dire « fume pas la cigarette, c'est pas bon pour ta santé », ça va être des pubs qui te disent « Hey, occupe-toi de ton père, occupe-toi de ta mère. »
Ça va arriver plus tôt que tard,
ils
t'as raison.
Ils sont occupés de toi quand t'étais jeune, c'est ton tour, puis ainsi de suite, pour faire la promotion, justement, des familles, comment est-ce que t'appelles ça, des
générationnelles,
Tu sais, au lieu d'aller pacter des CHSLD qui débordent déjà, occupe-toi de ton père, fais une petite place dans la chambre, et ainsi de suite.
Je pense à domicile.
Ça va devenir un endroit où on va mettre énormément de pression. Puis à partir du moment où quelqu'un voit sa qualité de vie décliner, moi, j'espère vivre le plus longtemps possible avec les gens que j'aime. Mais si ça fait, mettons, 5 ans que tu te lèves, t'en perds des bouts, t'as mal dans le dos, t'as mal dans les genoux, t'es plus capable de descendre un escalier, t'es plus capable de te faire des toasts, ça se peut qu'à un moment donné, je m'attende, puis que j'appelle les boys, puis que je dise, ben.
Papa, arrête tes médicaments.
On a quelque chose à jaser ensemble, tu sais.
Il y a un documentaire.
C'est pas tout noir puis tout blanc, je trouve.
Non, puis tu vois, moi, il y a un documentaire, puis je vais retrouver le nom. Il y a un documentaire qui m'avait fait changer d'idée. C'est il y a 2 ans, je pense, que c'est sorti. Une journaliste qui avait décidé de suivre un homme qui avait décidé que c'était son dernier été.
Ah, c'est à Radio-Canada.
C'est à Radio-Canada.
On avait reçu la journaliste
ici
pour nous en parler.
Le nom m'échappe, je vais le retrouver.
Oui, je l'ai vu aussi, c'est vrai.
Mais moi, ce documentaire-là a vraiment fait changer ma pensée parce que je pense que de façon super égoïste, puis c'est ton premier réflexe comme être humain, là, je me disais, hey, pas question que je perde mes parents plus tôt que tard parce que tout d'un coup, eux autres sont tannés, la vie est trop belle.
Alors que si t'es malade, c'est toi qui subis les contre-coups. C'est toi qui vis le quotidien.
Là.
C'est toi qui perds l'emprise sur ce que tu vis, sur ta qualité de vie puis toute l'équipe.
Là, j'ai des histoires, puis préparez-vous parce que c'est des histoires émotives. Quelqu'un qui nous écrit « Mes beaux-parents malades ont demandé l'aide médicale à mourir les deux ensemble dans le même lit en se tenant la main. »
Oh, c'est beau.
Mon doux Seigneur.
Je suis contente qu'ils le permettent. Je suis vraiment contente qu'ils favorisent ce genre d'affaires-là parce que avec le recul, ma grand-mère, quand je vous dis que sa santé a décliné, elle ne se levait plus sa chaise quand mon grand-père est mort. Là. Pour elle, avec le recul, je pense que si ça avait été une option quand mon grand-père avait un cancer, ça aurait été exactement... Puis ça aurait été fait avec les proches autour. Tu sais.
Oui.
Mon père a reçu l'aide médicale à mourir il y a à peine 7 mois. Après 8 mois à l'hôpital, et j'étais d'accord, puis il m'avait dit que c'était ça le suicide. Pas évident, mais c'était son choix. Je veux saluer l'auditrice. Merci pour ces partages-là. T'sais, on le voit, là, c'est plus commun qu'on pense.
Hein? Oui. Ouais.
Puis, vois-tu, c'est ça que je veux pas faire. Puis en même temps, je tombe peut-être un peu dans le panneau. Là, je viens de voir le texto passer, puis je suis un peu d'accord. Le romantisme du désespoir m'inquiète.
Ouais, mais là, on n'est pas dans Roméo et Juliette. Là.
Mais je pense que c'est ça. Mais tu sais, quand je disais ouvrir la porte grand, là, puis le faire la promotion, moi, c'est un peu de ça que j'ai peur. Là. Juste pour vous revenir sur le documentaire, ça s'appelle Un été pour dire adieu. C'est sur icitout.tv. Honnêtement, je vous le conseille.
Pas l'extra, là, la section gratos.
Oui, oui. Ouais. Okay. Puis honnêtement, ça peut peut-être faire changer un peu votre mindset. De le voir dans une famille externe si vous le vivez.
Puis en même temps, tant que tu n'es pas dedans, tant que tu ne le vis pas avec un être cher ou quelqu'un que tu connais, tant que ça ne t'arrive pas à toi, tu peux avoir une opinion, mais tu ne sais jamais comment tu vas réagir.
Non. Ma grand-mère, il y a quelques mois, il y a un de ses bons amis, ma grand-mère est rendue à 86 ans, là, mais il y a un de ses bons amis qui a été son patron, qui lui était dans les 90, tu sais, plus jeune, puis il l'a invité à souper. Puis elle a pensé que c'était un samedi soir, tu comprends, comme un autre. Elle était bien contente d'aller le voir. Puis il a annoncé que demain matin, il recevait l'aide médicale à mourir. Tu sais, t'es au pied du mur. Elle a profité de cette dernière soirée-là, mais je veux dire, ça rentre au poste.
Ça rentre au poste, mais on laisse le choix à des gens plutôt que le corps s'éteigne tout croche dans la douleur.
Pensez-vous qu'à un moment donné, c'est un choix qu'on aura juste pu, puis passer un certain état médical... Parce qu'on est trop de personnes âgées, qu'on manque de place.
Je pense qu'on va devenir plus intelligent, puis c'est drôle, hein?
C'est...
Non, mais tu vas voir où je veux m'en aller avec ça.
C'est comme imaginer la paix dans le monde, Denis, souhaiter qu'on devienne plus intelligent comme société. T'as-tu vu c'est qui le président de l'autre bord?
Oui, non, mais tu vas...
Non, mais le libre choix.
Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Tu sais, on parle souvent avec notre amie urgentologue Élise Berger-Pelletier, puis on avait fait un podcast, il était une fois la santé, sur la vieillir en santé, tu sais, l'espérance de vie en santé. Puis, on a encore un principe d'acharnement qui existe ici. Puis, il y a une portion de ça qui vient de notre passé religieux où quelqu'un qui accumule les problèmes de santé. Tu sais, quelqu'un d'Alzheimer, là, qui est rendu super loin. Pourquoi prend encore des médicaments pour la haute pression, par exemple? Tu sais, c'est juste de d'étirer l'inévitable, si on veut. Il va falloir, à un moment donné, comme société, qu'on soit conscient de ça. Que quand on voit de nos proches qui perdent leurs moyens, quand ils amènent à l'hôpital, puis qu'on t'ouvre la porte à dire « Hey, vous pensez pas qu'il y a certains traitements qui pourraient être arrêtés? » D'avoir la grandeur d'esprit de dire oui sans se sentir coupable. C'est beaucoup d'affaires qu'il va falloir réfléchir avec le temps. Là.
Je pense qu'une de mes peurs, moi, c'est le geste du désespoir.
Puis, tout à fait d'accord, Audrey.
Je m'explique, là, au-delà de la maladie puis de la vieillesse, tu sais, il y a un texto qui est entré sur les logements. Tu as des personnes âgées, puis de plus en plus, là, on entend puis on en voit des articles sur le fait que nos personnes âgées reviennent sur le milieu du travail parce que l'argent, c'est pas assez pour se payer un logement ou pour être bien à la retraite.
Ouais.
Moi, j'ai peur que ça devienne un enjeu aussi. On n'est pas capable de se loger dans un endroit qui nous convient. On rush, on n'a plus de plaisir, on est à bout, puis on décide de tirer la plug, tu sais. Ce geste-là de désespoir...
Mais ça a toujours existé.
Ah, c'est sûr. Mais là, après ça, tu mets quoi comme règle? C'est à partir de 65 ans? C'est à partir de 65 ans?
C'est pas évident.
C'est tellement dur.
Puis il y en a qui vont te dire, c'est pas vis-à-vis l'âge, c'est vis-à-vis la maladie et la souffrance quand tu commences à être dans un état dégénératif. Tu sais, il y a des gens de 30 ans qui demandent l'aide à mourir parce que leur maladie fait en sorte que c'est plus de souffrance jour après jour, année après année, et c'est impossible que ça reprenne l'autre pente. Tu sais, c'est des histoires qui sont tristes à mourir. C'est arrivé à une dame de Québec, je crois, elle n'était pas dans la trentaine, peut-être dans la quarantaine, elle est allée voir son dernier spectacle au Grand Théâtre. Il y avait eu des reportages là-dessus à TV. Puis après ça, elle, le lendemain, elle partait. Là. Tu sais, c'est vraiment pas évident.
C'est pas évident, mais dites-vous qu'à une époque, quand cette option-là n'existait pas, l'odieux appartenait à la personne de poser le geste ou à ses proches de le faire.
Oui.
Ça existait, là.
Ouais,
on n'en parlait pas, c'était pas dans les médias, c'était pas là. Effectivement, pour les proches, il y avait toujours un risque que ce soit criminalisé. Pour certains médecins qui étaient des facilitants, il y avait ce risque-là. Ou encore pour la personne qui, justement, voulait pas que le fardeau soit porté par ses proches ou par ses soignants, elle était obligée de poser le geste. C'est dégueulasse, là.
Souvent souffrant, en plus. Exact. L'aide médicale à mourir apporte le côté paisible, justement,
les adieux.
Tu t'endors. Ben, oui, totalement.
Il est 15h56. Bon, vous allez me dire que je vais mettre un peu de confusion si on passe à l'actualité tout de suite puis que je vous demande si Éric Kerr est parti selon sa décision ou si quelqu'un
c'est
a pris la...
Ouais,
OK, non, mais c'est parce que ça va mettre de la confusion. Hein, ouais. On est mieux de laisser faire ça. On va faire les nouvelles au retour de la pause.
T'es de mauvais goût quand tu veux, toi.
Oui, ça m'arrive.
Là, c'était fin comme ligne.
Oui, c'était fin.
T'es quasiment...
Éric Kerr est pas mort, hein? Juste vous dire, il est plus ministre.
T'aurais pu être la personne qui fait la joke de plus mauvais goût, mais il y a toujours la personne des réseaux sociaux de la CAQ qui a pris une horrible photo d'Éric Kerr pour lui dire merci. Fait que
toi. On est tellement con... on veut tellement te rendre hommage qu'on a pris vraiment la photo où t'as de l'air d'un imbécile heureux, puis on l'a mis sur nos réseaux sociaux. Juste revenir à l'endroit où on a débuté la conversation, parce que c'est en parlant du décès de Gene Hackman, puis là, on a parlé de l'aide médicale à mourir et ainsi de suite, d'un paquet d'affaires. Dans le cas de Gene Hackman, on ne sait pas encore ce qui est arrivé.
Il y a une enquête. Vous rappelez que les deux corps, le corps de leur chien, qui ont été retrouvés un petit peu plus tôt aujourd'hui, les deux qui auraient été décédés depuis deux semaines, de ce qu'on peut comprendre. Puis jusqu'à maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de brouillard dans cette histoire-là. Puis on ne semble pas tout à fait s'aligner justement sur le « on s'est aidé à mourir l'un l'autre ».
Hey, beaucoup...
De beaux témoignages.
Oh, ouais, sérieux, là,
ouais. Puis je veux peut-être en partager quelques-uns là, avant qu'on passe à la pause. Vous avez pris le temps de les écrire, puis je pense que ça prend beaucoup de courage. Là. Mon voisin d'en face a eu recours à l'aide médicale parce que la maladie progressait trop. La veille, je pouvais le voir avec toute sa famille, enfants, petits-enfants. On s'est fait une soirée. Ça semblait tellement une soirée normale vue à travers la fenêtre. Le lendemain matin, lorsqu'il a quitté pour l'hôpital, les voisins les plus proches de lui étaient sur le trottoir pour saluer son départ. Ça doit être des moments assez...
J'ai 43 ans, diagnostic de sclérose en plaques à 40 ans. J'ai pris la décision de notarier le formulaire de directive médicale anticipée, chose dont j'ai discuté avec ma blonde et les enfants. Je sais pas comment ça va aller, mais soulagement pour moi et mes proches qui n'auront pas à prendre certaines décisions. Pas nécessairement l'aide médicale à mourir, mais tu sais, d'un coup que...
Ma mère est transférée aux soins palliatifs aujourd'hui. Le cancer stade 4 généralisé. Les médecins lui donnent 2-3 semaines maximum. Ma tante va avoir la discussion avec elle à ce sujet ce soir. J'ai peur de sa réponse, mais le choix lui revient.
Ben oui.
Je suis déchiré entre arrêter de souffrir ou rester le plus longtemps possible. Bonne réflexion, mon ami. Il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense qu'il faut se parler, mais surtout, il faut écouter. Puis encore là, c'est avec beaucoup d'humilité que je propose ça. Là. J'ai l'impression que chaque situation est unique, puis il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il y a juste beaucoup de nuances de gris. Puis toutes les situations sont uniques, puis en voici une autre. À mon avis, il y a des sorts pires que la mort. Ma mère est schizophrène. Elle l'a été toute ma vie. 16h06. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Il y a de la poudrerie, de la neige qui tombe entre 6 et 8 cm au cours de la soirée et de la nuit. On a une bordée également de prévu pour samedi. Entre les deux, refroidissement des températures pour la journée de demain. Ça baisse à moins 5 au cours de la nuit et à moins 9 en après-midi demain, essentiellement avec du soleil. 10 cm de neige sont prévus pour l'ouverture du mois de mars samedi, avec un maximum de moins 8. Et dimanche, ce sera froid. Le minimum est à moins 24, le maximum à moins 13. Comment ça va sur les routes, Audrey?
C'est assez difficile en ce moment sur la capitale, direction est entre Henri IV et Laurentienne. Très au ralenti, direction ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Des problèmes sur Robert Bourassa Nord entre Charest et la capitale. Charest est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa surtout que ça se passe. Il y a des gros problèmes pour aller chercher les ponts en ce moment, la direction sud. Si vous êtes sur Henri IV, ça commence à ralentir à la hauteur de Charest. Même chose pour ce qui est de Duplessis sud et la 20 direction ouest. C'est surtout à la hauteur de Chemin des Îles que ça ralentit. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, 88-971-102 texto.
On va se lancer dans l'essentiel des nouvelles et il y a quand même beaucoup d'actualités cet après-midi. Et si je veux résumer l'actualité de cet après-midi, on peut dire que autant chez les contribuables de Québec qu'au gouvernement, c'est la journée pour sortir ses vidanges.
D'ailleurs, depuis 9 minutes, la grève des cols bleus est suspendue. On pourrait y revenir dans quelques instants. Mais oui, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de l'émission, en fait, c'est le cadeau que François Legault a fait à Gravel dans le retour à 14h, ben floche cet après-midi, alors qu'il était du côté de la TUC. Il a confirmé qu'il avait reçu la démission de Éric Kerr, ministre de la Sécurité et du Numérique. Par la suite, Éric Kerr qui a envoyé par l'intermédiaire des médias sociaux son propre texte pour dire qu'avec tout ce qui s'est passé avec la SAAC, qui assumait ses responsabilités comme ministre et qui n'avait rien à se reprocher, hormis le fait de ne pas avoir été assez méfiant. J'en suis venue à la conclusion que c'était devenu une distraction qui nuisait à mon gouvernement et à mon premier ministre. Je lui ai donc offert ma démission comme ministre de la cybersécurité et du numérique. Je tiens à remercier mon premier ministre pour la confiance qu'il m'a accordée. Il demeure en poste comme député de la Pelletrie. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ça n'a pas bien été dans Jean Talon quand on est allé en partiel. Ça n'ira pas bien dans Terrebonne quand on s'en va en partiel au courant des prochaines semaines. Et l'autre affaire, quand il y a des sondages vraiment par circonscription, qui est en avance dans la Pelletrie, dans les intentions de vote?
C'est les conservateurs?
C'est un certain Éric Duhaime.
Oui, exact.
Effectivement, Éric Duhaime qui n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Oui, et qui, si parfois on avait dit à Éric Kerr, tu démissionnes aussi comme député, on se serait retrouvé dans une situation où on faisait rentrer Éric Duhaime à l'Assemblée nationale.
Je trouve ça super important d'amener une nuance à ce que tu as dit tout à l'heure en disant Éric Kerr a publié son propre message. C'est pas parce qu'il l'a publié sur ses réseaux sociaux que c'est son propre message. Je pense qu'on lui a donné la feuille.
Éric Kerr a fait send.
Puis on lui a dit, et gardons cette personne dans l'anonymat, ça, c'est ce que tu vas mettre sur tes réseaux sociaux. OK? Puis si t'es gentil, on va écouter le Canadien ensemble ce soir.
Hey, t'as bien fait de changer ta voix, je l'ai pas reconnue.
Moi non plus, ben, je sais là, pas c'est qui.
Je suis content.
Les gens sont en colère. Un peu plus tôt aujourd'hui, on avait d'ailleurs libéré tout l'horaire d'Éric Kerr, fait qu'on pouvait se douter que ça s'en venait. Puis je vais vous revenir avec les réactions d'autres politiciens dans quelques instants. Mais ça a eu un impact chez d'autres personnes et peut-être que ça en aura d'autres aussi. Hier, le Conseil des ministres avait désigné un certain Pierre E. Rodrigue pour présider l'Office des professions du Québec. Lui était sous-ministre sous Éric Kerr pendant toute l'histoire Saclic. Et comme par hasard, on a comme changé d'idée et la nomination a été retirée. On comprendra qu'on ne voulait pas nécessairement que l'attention soit là-dessus non plus.
Autant je trouve ça incontournable qu'Éric Kerr soit plus ministre, autant je trouve ça dégueulasse qu'un gouvernement autant responsable que lui s'essuie les pieds sur sa carcasse. Pensez-vous vraiment qu'Éric Kerr, de son propre chef, sans consulter quelqu'un d'important, aurait lui-même signé des décrets, appelons ça des décrets, c'est à la mode, avec un gros crayon feutre? Pensez-vous qu'Éric Kerr aurait fait ça sans consulter le premier ministre pour cacher des dépenses excédentaires de 222 millions de dollars? On voit comment fonctionne la CAQ. On voit qui est important à la CAQ. Pensez-vous vraiment qu'Éric Kerr a fait ça de son propre chef? Come on, man.
T'as résumé en d'autres mots pas mal les propos qui ont été tenus par les différents partis d'opposition. Au Parti libéral du Québec, c'est encore une fois Monsef Deragy qui est sorti. Le député qui a mentionné que le ministre n'a pas démissionné en faisant un acte de contrition et en assumant ses responsabilités. Il n'a pas reconnu son incurie. C'est des beaux termes, hein? La lumière doit être faite plus que jamais, décaviarder ou démissionner. Donc, on continue à appeler à la démission, entre autres, de François Bonnardel, qui était le ministre des Transports quand tout ça a débuté, et de Geneviève Guilbeault, qui, elle, est actuelle ministre des Transports, puis qui était quand même en poste quand on a décidé d'aller de l'avant avec la mise en ligne de Saclic.
Éric Kerr n'était pas assez important dans ce gouvernement-là pour porter le chapeau tout seul. Arrêtez de nous niaiser, là.
Québec solidaire est ressorti en demandant encore une fois une commission d'enquête publique sur les contrats informatiques du gouvernement le plus rapidement possible. Ça, c'était aussi une demande d'Éric Kerr dans le temps qu'il était à l'opposition et comme par hasard au pouvoir, ce n'est jamais arrivé. Du côté du PQ, il faut aller au bout de l'affaire afin d'établir la responsabilité de Geneviève Guilbeault et de François Bonnardel, notamment.
Il y a quand même une certaine conséquence parce qu'Éric Kerr, dans le temps qu'il était dans l'opposition, demandait aux incompétents de démissionner. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui.
Il y a eu tantôt une mêlée de presse à laquelle, d'ailleurs, notre collègue Jeff Fortin, que vous pouvez entendre dans Rage Against le matin, tous les matins, qui était sur place. Il y avait Geneviève Guilbeault qui était là. Il y avait aussi Bernard Drainville qui était de ce qu'on peut comprendre. Geneviève Guilbeault a pas mal fait l'éloge d'Éric Kerr puis du travail qu'il avait fait au fil du temps, alors que Bernard Drainville, de son côté, a pris sa défense en disant que c'était une journée difficile pour leurs collègues, pour sa famille, pour ses enfants aussi. Fait que c'est pas mal ce qui s'est passé dans les dernières minutes.
Bernard Drainville qui a chanté « Non, rien de rien.
Arrête.
Kerr ne regrette rien. »
Arrête! J'aimerais avoir ses plus grands classiques sur CD, s'il vous plaît.
Oh, ça n'a pas de bon sens.
Je t'offrirai un Kerr qui démissionne pour déjeuner.
C'était bon, ça. Pour
non, ben là, je j'ai pas scripté, là. J'invente à mesure. Si vous en avez d'autres, on les prend.
Si on se rapproche de ce qui se passait directement à la Ville de Québec, je voulais mentionner depuis 16h cet après-midi que la grève des cols bleus de Québec est suspendue. Hier, c'était médiation et on avait suffisamment avancé. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit des deux côtés de la table pour décider qu'aujourd'hui, on reprenait le travail. Il y aura des rencontres de négociation qui vont débuter ce samedi, pardon, des rencontres de conciliation, devrais-je plutôt dire, de part et d'autre. Donc, on va essayer de régler la situation. Ça fait qu'on a repris les différents services, qu'il y aura des services de collecte qui vont prendre dans le secteur de Beauport puis de la Haute-Saint-Charles pour lesquels il n'y avait pas de sous-traitance. Par contre, il y a des nuances, entre autres, pour le recyclage, les dates. Allez faire votre tour sur le site de la Ville dans la section Info-Collecte si vous étiez impacté, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont à cet endroit-là. Même affaire si vos enfants pratiquaient des sports qui avaient été mis sur pause pendant cette grève-là. Selon les organisations, ça va reprendre plus tôt que tard. Fait qu'allez voir vos courriels, là, c'est vraiment géré à la pièce. Il y a une sortie du maire de Québec aujourd'hui qui a d'ailleurs parlé encore une fois en bien des cols bleus sur le fait qu'avec le relâche qui s'en vient, c'est une bonne décision de reprendre le travail.
Bon, première des choses, ils mettent fin à leur grève. Je salue leur courage de faire, puis je salue c'est leur initiative de revenir à la table puis de dire on veut revenir à la table. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. D'abord, principalement, puis on en a parlé pour nos jeunes, à l'aube de la relâche, on va tout faire pour que tout soit remis rapidement sur pied. On est à une question de jours près, dans les prochains jours, on n'est pas à la fin de la relâche. Nos équipes vont travailler d'arrache-pied. Je vous donne ce que je vous ai toujours dit, la réponse est non. La capacité de payer des citoyens, elle ne change pas. Est-ce qu'il y a des modalités qu'on peut faire qui font en sorte qu'on en donne un peu sur le salaire, mais on en récupère sur le normatif qui fait que pour la Ville, ça ne coûte pas plus cher? On est ouvert à l'évaluer. Mais ça ne peut pas coûter plus cher à la Ville. Donc, il faut trouver, dépendamment des négociations qu'on fera avec eux. Les deux parties ont démontré de l'ouverture. Il faut faire en sorte que le cadre financier reste le même.
Une chance que les cols bleus n'ont pas pris leur décision demain parce que le maire n'aurait pas pu réagir.
Non, effectivement. Ça
s'en va, cette voix-là.
Sa voix est plus fuyante que la mienne, et c'est peu dire en cette journée-ci.
Je ne sais bien pas où ce qui a pogné ça, ce grippe-là, hein, Véro?
Je n'ai pas donné le rhum.
Vous avez donné des cols, lui, dans le
cadre? Non, j'ai refusé. J'ai absolument refusé de m'approcher du maire, justement, pour ne pas contaminer personne dans son entourage.
Non, pour vrai, il était déjà un peu magané quand il est venu en studio cette semaine.
Le maire qui demeure conséquent parce qu'il l'a dit à de nombreuses reprises que les demandes des cols bleus étaient trop élevées, que la ville, que les citoyens n'avaient pas les moyens de payer. Fait que reste à voir de quelle manière on sera suffisamment créatif, parce que si on se retrouve, ils reviennent au travail puis que la ville leur accordait un 30% de hausse de salaire, ça va grogner dans la population, parce que c'est pas juste la grève qui a dérangé, les demandes aussi. Là.
Je vois pas la ville l'échapper à ce niveau-là. Je pense que présentement, ils ont le gros bout du bâton et le président et la présidence du syndicat des cols bleus a juste voulu sauver la face cette semaine. Puis je pense que la ville a été bon prince pour leur permettre de le faire. Parce que, bien franchement, même au sein des employés, ça grognait, puis ça grognait fort. On a manqué de jugement. Le monde n'a pas aimé ça. D'ailleurs, les plaintes ont explosé. Tu sais, c'est un signe de quelque chose. Les gens appellent pour se plaindre. Ils savent que les cols bleus sont en grève. Mm-hmm. Imagine-toi quand les employés vont revenir, dans quel climat ils auraient été après un mois ou deux mois de grève.
Ah, oh, ça aurait laissé des traces.
Le maire a été très doux avec les cols bleus quand il est venu en entrevue cette semaine. C'est sûrement pas le seul endroit où il a partagé des bons mots. Il était peut-être en train de mettre la table puis de dire « Hey, là, on a sorti des chiffres, là. On en a d'autres. Ce serait peut-être le temps de venir se rasseoir, mais surtout, avec la semaine de relâche qui s'en vient, ce serait peut-être le temps d'arrêter ce qu'on appelle des affaires simples au Saguenay. Ce serait peut-être le temps d'arrêter de niaiser. Mm-hmm. Là. Venez vous asseoir. Au pire, on fera semblant de négocier pendant une couple de jours, mais recommencez à travailler. Et je pense qu'il n'y avait juste pas le choix.
Du côté du fédéral, c'est le jour de la marmotte parce que Donald Trump a recommencé à parler des droits de douane visant le Canada qui entreraient en vigueur le 4 mars. Pourtant, au moment où on se parle, le tsar du fentanyl et d'autres ministres du côté du fédéral sont à Washington. Puis on en était relativement venu à une entente, en tout cas pour un mois. Mais là, semble-t-il que ce ne sera pas le cas. Encore une fois, il a accusé le pays de favoriser l'entrée de fentanyl du côté des États-Unis. Justin Trudeau qui a dit que la riposte du Canada serait la même que celle qui était prévue pour février. Donc, on a déjà une liste de produits américains, 30 milliards de biens américains qui recevraient des tarifs dès l'imposition des tarifs pour le Canada, un 125 milliards d'autres biens qui suivraient 21 jours plus tard. Justin Trudeau qui a aussi été questionné, c'est le chef du NPD, Jack Meeting, qui avait dit là, il y a le G7 qui s'en vient du côté de l'Alberta, donc en territoire canadien. Puis il avait dit qu'il faut bannir Donald Trump de sa présence au G7, alors que vous comprendrez que diplomatiquement parlant, ça se fait difficilement. Justin Trudeau qui a d'ailleurs dit non, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Et je termine en vous mentionnant que c'est jour d'élection en Ontario. Doug Ford qui a décidé d'y aller d'élection anticipée parce que ses sondages allaient bien. Voulait demander un mandat fort en disant « Je dois rester en poste pour être en mesure de défendre les intérêts ontariens face à Donald Trump. »
Ça a duré combien de temps, campagne électorale? 4 jours?
Ça a duré quoi? 3-4 semaines. Ça a été vraiment très, très, très rapide.
Ça donne le goût que ce soit tout le temps de même?
Oui, effectivement. J'avoue qu'une campagne électorale qui ne se prolonge pas, ça fait quand même du bien. Les sondages qui laissent croire qu'il va avoir une bonne victoire pour son parti, les progressistes conservateurs, puis qui devraient être majoritaires, reste à voir qui va être dans l'opposition. Semble-t-il que même dans des secteurs où d'habitude ça vote pas pour Doug Ford, ça se pourrait qu'on ait